Alors, du coup, avec ça, j'en étais arrivé un petit peu lundi dernier, me semble-t-il, à un certain nombre qui avaient existé et de contestations. Ce qui permettait d'ouvrir un petit peu le dernier point de cette affaire, eh bien, c'est un petit peu à la fois comment ça s'est passé avec les contestations et comment est-ce qu'on réagit vis-à-vis des contestations. Donc, j'avais commencé en vous disant que l'époque médiévale n'est pas l'âge irrationnel qu'on imagine, en fait. C'est quand même une époque qui est profondément rationnelle. Et c'est bien pour ça que pendant tout le Moyen-Âge, il y a tout un tas de gens qui se posent des questions en disant, mais en fait, finalement, ces reliques, elles sont vraies ou sont fausses, elles sortent d'où? Il y a peut-être des abus, etc. Donc, ce n'est pas une invention de la modernité. Donc, la modernité, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, elle commence au XVIe siècle. Hein. Donc, soyez pas surpris par mon vocabulaire, parce qu'aujourd'hui, on croit que ce qui est moderne, c'est ce qui date de l'année 2022. Mais enfin, pour moi, ce qui est moderne, c'est ce qui date de 1600. Donc, voilà, comme disaient mes parents, mais enfin, c'est quand même un peu vieux, 1600. C'est vrai. Mais bon, ce n'est pas grave. Vous dire que la contestation du culte des reliques, ou au moins la dénonciation des abus, n'est pas une invention de la modernité, parce que c'est quelque chose qui existe depuis en fait très longtemps. Et qu'on le voit, je vous l'ai montré par des textes de chroniques, des textes même d'historiens. Si j'avais eu davantage de temps, je vous l'aurais aussi montré par les textes littéraires, parce que les textes littéraires sont extrêmement révélateurs de ce qui se passe à une époque. Et quand vous avez une floraison de textes littéraires médiévaux qui parlent des fausses reliques, eh ben, ça veut dire que c'est une idée qui circule dans les temps, à l'époque. Hein. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Donc, il y a une dénonciation des abus qui existe dès le Moyen Âge, et peut-être parfois de manière beaucoup plus précoce que ce qu'on imagine. Alors, la dénonciation partant d'ailleurs toujours du même phénomène, c'est de la floraison de reliques semblables ou pour pas dire identique. Alors, je vous en donne un exemple. C'est un certain Hubert de Nogent qui écrit un traité intitulé Les reliques des saints. Ça tombe bien, c'est exactement le sujet. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait dans ce traité? Il le commence par dénoncer l'existence de trois têtes de Saint Jean-Baptiste, en disant, bah, c'est pas possible qu'un homme ait trois têtes. Donc, il y en a forcément au minimum deux fausses. Mais de manière rationnelle, il peut aussi y en avoir trois fausses. Il dénonce l'existence d'une relique de la dentelée du Christ, enfin d'une dentelée du Christ possédée à Saint-Médard de Soissons. Donc la grande basilique de Soissons, on a une relique de la dentelée du Christ. En bon, disant, en fait, c'est complètement absurde. On ne peut pas avoir recueilli cette dentelée, sauf à supposer que la Vierge Marie faisait comme certains parents actuels qui font les collections des premières dentelées de leurs enfants. Et qu'ensuite, on aurait gardé cela eh bien, pendant des millénaires. Et par je ne sais quel mystère, cela se serait retrouvé à Soissons, au XIIe siècle. Vous voyez? Bon. Ceci dit, l'intérêt d'avoir une dentelée du Christ, ce n'est pas complètement idiot, en fait. Hein. Parce que ça sert à quoi, en fait? Ça sert à méditer l'humanité de Jésus. Si j'ai une dentelée du Christ, ça veut dire qu'il a vraiment été enfant et qu'il a perdu ses dents comme tout enfant. Alors, je ne sais pas à quel âge un enfant perd ses dents, mais en gros, vers 7, 8, 9 ans, quoi. Vous voyez, si j'ai cette relique-là, c'est pour m'approcher de l'humanité du Christ. Bon, après, le problème, c'est qu'évidemment, l'existence même de cette relique est quand même sujette à caution. Bon, si vous préférez, il y a une autre église de France. Je ne me rappelle plus laquelle, mais qui se targue de posséder un fragment de pain mastiqué par Jésus-Christ en personne. Bon. Là, on tombe dans le ridicule. Mais voyez, Guibert de Nogent, mes exemples, ils sont sortis de Guibert de Nogent. Hein. Ils ne sont pas sortis d'un historien contemporain. J'insiste vraiment là-dessus, en fait. Pour vous dire que l'idée qu'il y a des reliques ridicules ou invraisemblables, enfin, donc, qu'il ne faut pas vénérer, c'est une idée qui court au Moyen-Âge. Donc la contestation, elle n'est pas simplement cela. Alors ce qui se passe au XVIe siècle, c'est que ce sujet, alors je ne sais pas si je dois dire qu'il devient un peu plus brûlant, mais qu'on le positionne de manière un peu différente. À savoir qu'un certain nombre, alors je vais peut-être recommencer par là parce que je ne sais pas dans quelle mesure c'est clair pour vous ou pas, mais la fin du XVe et le début du XVIe siècle est un âge absolument fascinant du point de vue de l'histoire intellectuelle. je ne sais pas pour le reste, mais en tout cas pour l'histoire intellectuelle, c'est-à-dire l'histoire des idées savantes, l'histoire des professeurs d'université, ou ce genre de choses. Pourquoi ? Parce que la Sorbonne, à la fin du XVe siècle, fait une réforme radicale de ses études, de son programme d'études. Alors, ça, c'est le genre de choses que j'appelle l'histoire intellectuelle, d'étudier le programme d'études dans les facultés. Et cette réforme radicale du programme d'études a occasionné de multiples troubles. Bon, il n'y a aucune comparaison de ma part avec les réformes radicales des programmes d'études de l'enseignement secondaire en France qu'il y a depuis quelques années. Mais voyez, c'est quelque chose de cet ordre-là. Parce que si je change les programmes d'études, surtout dans les facultés, ça veut dire que je change les sujets de recherche, que je change les méthodes de formation, etc. etc. Et bien, c'est exactement ce qui s'est passé à la fin du XVe et au début du XVIe siècle. Et du coup, au XVIe siècle, tout début du XVIe siècle, vous avez tout un ensemble de gens qui réfléchissent en se disant « mais qu'est-ce qu'il faut enseigner ? De quelle manière il faut enseigner ?» Et du coup, on se retrouve à avoir tous les sujets qui tombent les uns après les autres sur la coupe de ces gens qui réfléchissent. Et alors, en France, il y a particulièrement un cercle fondamental pour l'histoire intellectuelle française qu'on appelle le cercle de Meaux. Alors, on est, donc Meaux, la grande ville du célèbre par Bossuet, on est dans les années 1517-1519, donc début du XVIe siècle. Le cercle de Meaux, c'est très clairement un cercle intellectuel, donc de gens qui se réunissent pour réfléchir sur tout un tas de réalités. Et comme c'est des gens qui réfléchissent, ils ne sont pas d'accord. Ben, sinon, c'est qu'ils ne sont pas des intellectuels. Hein. Enfin, le principe même d'un intellectuel, c'est de ne pas être d'accord. Parce que sinon, ça veut dire qu'on n'a pas réfléchi, en fait. Le cercle de Meaux dans l'histoire du catholicisme et du protestantisme français est très intéressant, hein, parce que la moitié restait catholique et la moitié sont devenus protestants, au nom même de leur participation au cercle de Meaux. Donc ça veut dire que dans ce cercle, on a touché à des choses importantes. Bon, par exemple, un des membres les plus connus de ce cercle, c'est Erasme, donc, un des plus grands intellectuels du début du XVIe siècle. Bon. Alors, dans le cercle de Meaux, bon, c'est des noms qui aujourd'hui ont un petit peu disparu de la circulation, mais quand même, se pose la question du culte des reliques. Et elle se pose cette question-là, en disant, mais après tout, on a des fausses reliques. Et en plus, on en a tellement qu'on ne sait plus très très bien s'il y en a des vraies qui existent. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a tellement de fausses reliques en circulation que ça jette le discrédit sur toutes les reliques finalement. Et bien, du coup, vous avez deux positions opposées. Une position d'un certain Pierre Caroli, qui dit, bah, puisque c'est comme ça, par prudence, il vaut mieux s'abstenir de culte des reliques. Retenez que ces positions-là, on va les retrouver dans le christianisme, au moins occidental, des années 1960-1970. Précisément sur le même motif. Pierre Caroli disant, bah, de toute façon, ce n'est pas indispensable. Puisque ce qui est indispensable, c'est le Christ. Mais ce discours-là, encore une fois, n'est pas novateur. Parce qu'il y a bien des gens qui, au Moyen-Âge, disent, ce qui est indispensable, c'est le Christ. Ce qui est novateur, c'est de dire que puisqu'il existe des fausses reliques, il faudrait qu'on se débarrasse de toutes les reliques. Voyez la différence. Alors, le contradicteur, Pierre Caroli, un homme dont je pense un peu plus connu, mais peut-être que vous n'avez jamais entendu son nom, s'appelle Lefèvre d'Étaples. Lefèvre d'Étaples, lui, adopte la position inverse, en disant « Les reliques doivent être vénérées, donc il faut à tout prix maintenir un culte des reliques, y compris des fausses reliques. » Ah, et pourquoi ? Parce que les reliques, même fausses, sont un support de dévotion. Donc, une aide pour les gens. Alors, je ne sais pas si vous avez réalisé la différence profonde qu'on a par rapport à ce qu'on faisait il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines, la question était de savoir si la relique était le témoignage de la résurrection des morts, et donc de la bienveillance de Dieu, de la bonté de Dieu sur la terre. D'accord ? Du coup, le culte des reliques me permettait de capter pour moi cette bonté de Dieu. Ça veut dire que quand on est au début du Moyen-Âge, et peut-être même pendant toute la période médiévale, ce qui est d'abord important, c'est l'objectivité de la relique. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce que pour que Dieu agisse, il faut que la relique soit objective. Sinon, c'est une fausse relique. Et ce qui est fausse relique est superstition. Ça, c'est la logique qu'on a. Lorsque Lefèvre d'Étaples dit « on peut vénérer une fausse relique parce que c'est un support pour la dévotion », qu'est-ce qu'il fait ? Il se déplace de l'objet vers le sujet. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il ne s'intéresse plus à la relique elle-même comme objet permettant le rayonnement du bien, si vous voulez, autour de lui, mais il s'intéresse d'abord à la foi du fidèle qui s'approche de la relique. Je passe de l'objet au sujet. Ça, c'est la révolution propre à la modernité. Bon. Dit de manière un peu vulgaire, c'est ce qui fait que l'homme moderne est un homme extrêmement égocentrique et que nous-mêmes, nous n'en sommes pas sortis. Enfin, je vous dis ça, ça déborde un peu notre sujet, mais vous avez compris que j'aime bien faire des digressions. Voyez-vous, toute notre pastorale aujourd'hui est centrée sur la question de savoir si ça me fait du bien ou si ça ne me fait pas du bien. Si ça attire, si ça attire pas. Ben, ça, c'est juste une question égocentrique. L'homme médiéval est à des années-lumière de ça. L'homme médiéval, c'est la question de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. À titre personnel, je ne suis pas sûr qu'on ait gagné avec cet égocentrisme. Ben, allez, je vous dis ça parce que, bon, puisqu'on parle de résurrection des morts, je suis vraiment frappé de voir que les 95% des fidèles qui se présentent pour des obsèques s'intéressent d'abord à leur consolation et ne s'intéressent pas du tout à leur défunt, en fait. Ben, ça, c'est juste une forme d'égoïsme et pas de charité envers le défunt. Je le dis de manière un peu dure, mais vous voyez ce qu'il y a en jeu. Mais ça, il me semble, je me trompe peut-être, que c'est un des changements majeurs de la modernité. Alors, qu'on arrive à suivre de bien des manières, mais c'est que, en gros, dit de manière très simple, c'est comme le monde perd son objectivité. Eh bien, je me recentre sur le sujet. C'est quelque chose comme ça. Donc, support de dévotion. Eh bien, c'est exactement ce que je vous ai dit à propos de la dent de lait conservée à Saint-Médard de Soissons. Peu importe que ce soit une fausse dent, peut-être, non, c'est peut-être une vraie dent de lait, mais peu importe que cette dent de lait n'ait jamais appartenu au Christ, puisque si ça me permet de m'approcher ou de méditer l'humanité du Christ, bah, quelque part, je n'aurais pas perdu mon temps. Vous comprenez l'affaire ? Donc, ça, c'est la position de Lefèvre d'Étaples. Et qui dit à Pierre Caroli, si vous rejetez cette dent de lait, je ne dis pas qu'il l'a dit en vérité, c'est juste pour donner un exemple, eh bien, le risque que vous prenez, c'est d'avoir une dévotion au Christ qui soit complètement désincarnée. Ça, c'est un des débats profondément actuels, en réalité. Parce que, alors, je suis désolé pour les plus anciens d'entre nous, je vous parle d'une époque que je n'ai pas connue, mais la période des années 1960 nous a légué, en fait, une foi extrêmement intellectualisée. En réalité, beaucoup plus que ce qu'elle prétend, que ce que cette période prétend. Une foi extrêmement intellectualisée, y compris au niveau liturgique, où en permanence, il faut qu'on explique les choses, puisque en fait, on crée des symboles qui ne sont pas parlants. Enfin, je dis, c'est des choses comme ça. Mais ben, quelque part, c'est le risque de la position de Pierre Caroli. Alors, le risque de la position de Lefèvre d'Étaples, vous voyez bien évidemment, c'est qu'on perd complètement de vue, enfin, qu'on accepte en fait n'importe quelle superstition, dans tous les sens, et que ça ne soit pas très honnête de point de vue intellectuel. Mais voilà, moi je vous mets les deux choses parce que je crois qu'il faut qu'on arrive à être un peu honnête de cette manière-là. Parce que ce n'est pas simple de savoir ce que je choisis ou l'un ou l'autre. Alors, ça c'est le cercle intellectuel à mots. Pour autant, les réformateurs dans le monde germanique, donc Luther et les réformateurs suisses, ne s'intéressent pas du tout aux reliques. Ce n'est pas leur problème. Parce qu'ils y voient d'abord une aide pour les fidèles. Entre parenthèses, je voulais vous dire, j'ai oublié, ça m'est sorti de l'esprit et ça me revient, cette idée que quelque chose puisse être faux et que quand même produise un bienfait spirituel, c'est encore quelque chose qui est très présent dans l'Église actuelle. C'est au cœur de la question du traitement des apparitions de Medjugorje. au sens où aujourd'hui il a été statifié, mais pendant toutes les années où il n'était pas statifié, il était de dit, il est indéniable que le pèlerinage de Medjugorje produit quelque chose. Donc on ne va pas l'interdire parce que ça serait se priver du fruit. Pour autant, on n'est pas du tout sûr que les apparitions soient véritables. Vous voyez, c'est exactement le même raisonnement, en fait. Bon. Alors, je reviens à mes réformateurs. Donc, Luther et les réformateurs germaniques ne s'intéressent pas aux reliques. En fait, ce n'est pas leur problème. Ils ne les dénoncent pas. Vous voyez, dans les 95 thèses de Luther, ce n'est pas le problème. Et même, Luther est plutôt très hostile au mouvement de destruction des images, y compris des reliques qu'il y a eu dans le monde germanique au XVIe siècle. En revanche, celui qui est très hostile, eh bien, c'est Calvin. Alors, Calvin, réformateur genevois, ça c'est le monde français, là, écrit en 1543, traité relique. Bon, le nom est beaucoup plus long parce que Calvin n'a pas exactement l'art de la synthèse du titre. Donc, pour vous épargner les trois lignes de titre, parce que tous les livres de Calvin font des titres d'au moins trois lignes. Donc, en fait, pour vous épargner cela, on le résume en général sous traité des reliques. Le traité des reliques de Calvin n'est pas un traité. C'est un pamphlet de, je ne me rappelle plus de mémoire, mais quelque chose comme 200 ou 300 pages. Mais parce que Calvin, en fait, écrit en général de manière sous la forme du pamphlet, de manière prioritaire. Un pamphlet qui est un inventaire des reliques existantes. Ce simple inventaire ayant pour but de montrer que le culte des reliques est vain et non avenu. Vous voyez la logique. C'est donc la même logique que celle de Pierre Caroli. En fait, vous ne serez donc pas surpris d'apprendre que Pierre Caroli a rejoint le camp de la Réforme. Mais parfois, les choses sont plus subtiles. Mais voilà. Alors, je vous en ai mis un extrait juste pour vous donner un peu l'idée. Mais voilà, entre autres, florilège. Un jour, je vais arrêter de vous faire ces listes-là. Mais en fait, moi, je les trouve tellement amusantes. Voilà, donc, Calvin commence par nous signaler qu'on a 12 corps de Sainte-Marie-Madeleine, dont deux en France, puisqu'il y en a un à la Sainte-Baume et un autre à Vézelay. 12 corps de Sainte-Marie-Madeleine. C'est un travail très érudit. Hein. 3 corps de Saint-Lazare. Mieux encore, celle-là, j'aimerais la posséder, en fait. La queue de l'âne sur lequel Jésus a fait son entrée messianique à Jérusalem, au jour des rameaux, voilà, etc. Alors, pour vous montrer un peu comment c'est écrit, eh bien, je vous ai mis l'extrait de Calvin. En fait, c'est un pamphlet, donc c'est parfois assez amusant à lire, mais traité des reliques, je vous ai mis les reliques des apôtres. Alors, on va lire. C'est maintenant aux apôtres d'avoir leur tour. Donc, c'est le texte numéro 10. Calvin, c'est quelqu'un de très organisé. Donc, il a commencé par les reliques du Christ, puis les reliques de la Vierge Marie, et puis après, il y a les reliques des apôtres, et puis après, il continue avec les reliques des saints. Pour ce que la multitude pourrait engendrer confusion, si je les mettais tous ensemble, nous prendrons Saint-Pierre et Saint-Paul à part. Donc, pour dire, on a tellement de reliques de tous les apôtres que, en fait, j'y arrive pas. Donc, je vais commencer par ordre. Et puisque dans l'Église romaine, Pierre et Paul sont les princes des apôtres, eh bien, je vais commencer par cela. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Leurs corps sont à Rome. Bah oui, c'est vrai. La moitié en l'Église Saint-Pierre, l'autre moitié à Saint-Paul. Donc là, de fait, Calvin se fait l'écho d'une tradition existante dans l'Église de Rome, que les corps des deux apôtres sont réunis chacun par moitié. Ah, alors vous voyez le problème, c'est que si j'ouvre la boîte qu'il y a sous le tombeau, sous l'autel de Saint-Pierre, bah, si je comprends bien, si j'ai un corps entier, c'est que normalement je dois avoir deux moitiés. Ce que l'histoire ne dit pas, c'est si j'ai deux moitiés qui s'emboîtent ou si j'ai deux moitiés identiques. Vous voyez, parce qu'on peut poser toutes les questions. Hein. Je veux dire, est-ce que j'ai deux troncs à Saint-Pierre et quatre jambes à Saint-Paul, ou est-ce que j'ai le tronc de Saint-Pierre, parce que les têtes sont encore ailleurs, hein, rassurez-vous, et les jambes de Saint-Paul à Saint-Pierre, et inversement, ou pas. C'est une question, hein. Parce que quand on a ouvert la boîte sous Saint-Pierre, qu'est-ce qu'on a trouvé ? Effectivement, les ossements d'un homme qu'on a daté pour autant qu'on en sache quelque chose, du premier siècle après Jésus-Christ, et en raison de questions, alors ça c'est des questions très techniques pour lesquelles je suis complètement incompétent, c'est ce qu'on appelle l'archéozoologie, en raison des plantes, des traces de trucs datés, établis en Syrie. Enfin, ça tombe bien, puisque Pierre comme Paul viennent de Syrie ou du Proche-Orient au premier siècle. Donc, ni pour l'un ni pour l'autre, c'est absurde. Enfin voilà. Donc, Calvin nous dit, on a la moitié à Saint-Pierre, moitié à Saint-Paul. Et d'ailleurs, ils disent que Saint-Sylvestre les pesa pour les distribuer ainsi en égales portions. Alors, Saint-Sylvestre, c'est le pape de Constantin, donc du IVe siècle. Saint-Sylvestre, c'est effectivement le pape qui est à l'origine de l'invention. Ne vous inquiétez pas du bruit, il y a quelques insectes volant chez moi à l'heure actuelle, je ne sais pas d'où ils sortent, mais ce n'est pas grave. Saint-Sylvestre, c'est le pape qui a recueilli le corps de Saint-Pierre et de Saint-Paul et qui a fait construire la basilique Saint-Pierre et la basilique de Saint-Paul hors les murs. Donc, du coup, qu'il ait été maître d'opération sur les corps, c'est possible. Et donc, on dit que Saint-Sylvestre, voulant unir les deux saints, les a coupés en deux pour les partager de manière égale. Mais de manière liturgique, vous savez, nous en avons la fête des Saint-Pierre et Saint-Paul, le 29 juin, où ils sont unis ensemble et depuis des temps immémoriaux. Bon. Et les deux têtes sont aussi à Rome, à Saint-Jean de Latran. De fait, c'est vrai. Mais alors ça, ce n'est pas depuis Saint-Sylvestre. C'est depuis Martin V, donc au XVe siècle, de manière beaucoup plus récente. C'est-à-dire que Martin V, pour manifester l'unité de l'Église retrouvée à la fin du grand schisme d'Occident en 1431, je vous l'écris, mais ça, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère les deux têtes de Pierre et de Paul, et fait mettre dans deux gigantesques reliquaires qui sont encore aujourd'hui à Saint-Jean de Latran, la cathédrale, parce que, vous voyez, ce qui est fort, c'est qu'en fait, la cathédrale du pape n'avait pas de reliques de Pierre et Paul. Du coup, on a ça. Combien qu'en la même église de Saint-Jean de Latran, il y a aussi une dent de Saint-Pierre à part. Donc celle-là, je ne l'ai pas vue, je ne sais pas où elle est. Bon. Jusque-là, c'est assez logique, hein, finalement. Hein. J'ai deux corps coupés en trois parties et dispersés. C'est très logique. Après tout cela, on ne laisse pas d'en avoir des os partout. Comme à Poitiers, on a la mâchoire avec la barbe. À titre personnel, je voudrais bien savoir comment on peut conserver une barbe pendant plusieurs siècles. À Trèves, en Allemagne, plusieurs os de l'un et de l'autre. À Argenton, en Berry, donc Argenton-sur-Creuse, une épaule de Saint-Paul. Ah. Et quand cela serait-ce fait? Car partout où il y a églises qui portent leur nom, et vous savez bien qu'il y a beaucoup d'églises Saint-Pierre et beaucoup d'églises Saint-Paul, il y en a des reliques. Ben oui, c'est normal, puisque je vous ai dit que pour chaque fois qu'on construit un autel, il faut qu'on mette une relique dessous. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, il me faut une relique de Pierre et Paul. Si on demande lesquelles, qu'on se souvienne de la cervelle de Saint-Pierre dont j'ai parlé, qui était au grand autel de cette ville. Tant ainsi qu'on trouve que c'était une pierre d'éponge. Donc, ce que nous dit Calvin, c'est qu'à Genève, il y avait une relique de la cervelle de Pierre qui était en fait simplement une éponge un peu durcie. Ainsi, trouverait-on beaucoup d'eau de chevaux ou de chiens qu'on attribue à ces deux apôtres. Alors là, vous êtes dans le pamphlet, hein, parce que bon, si c'est de dire que je vénère des eaux de chevaux ou de chiens, c'est quand même pas terrible. Hein. Et là où il y a une certaine mauvaise foi de Calvin, c'est qu'il fait exprès d'ignorer la fabrication des reliques par contact. Là où il n'a pas complètement tort, c'est dans le même temps qu'on a de fait une véritable inflation. Et donc trop, c'est sûr. Avec les corps, il y a suite. C'est-à-dire, en français de Calvin, ça veut dire, c'est pas juste les corps, on a aussi des objets. Donc ça, on passe des reliques de première catégorie aux reliques de deuxième catégorie. Alors, quelles sont les reliques de deuxième catégorie pour les apôtres, Pierre et Paul? À Saint Salvador, en Espagne, et nous avons une pantoufle. Une pantoufle. De la forme et de la matière de cette pantoufle, je n'en puis répondre. Évidemment, on est en droit de se poser la question de savoir si Pierre et Paul portaient des pantoufles. Là. Mais c'est une question, vous savez. Quand je faisais mon mémoire de maîtrise sur les couronnements des empereurs du Saint-Empire romain, de nation allemande, peu importe, eh bien, on expliquait dans toutes les sources que l'empereur nouvellement couronné devait porter le manteau de Charlemagne, parce que l'empereur est le successeur de Charlemagne. OK. Mais quand on regarde l'aube, et au XVIIe siècle, on vous disait très clairement, c'est le manteau de Charlemagne. Mais certes, mais quand vous regardiez de près ce manteau de Charlemagne, vous aperceviez qu'il s'agissait d'un manteau arabe, écrit en arabe, probablement fabriqué en Sicile au XIe siècle. Donc plutôt rapporté par Frédéric Barberousse de son expédition sicilienne. Voyez ce que je veux dire. Simplement, peut-être que c'est à la fois une erreur historique, c'est possible. Peut-être que c'est une manière de charger un objet de sacralité, c'est possible. Voyez, c'est exactement le même raisonnement. Alors je continue. Il est bien à présumer que c'est une semblable marchandise que celle qu'ils ont à Poitiers. Alors à Poitiers, on a une pantoufle, je ne sais pas si c'est de Pierre ou de Paul, et la pantoufle est en satin broché d'or. Calvin, qui n'est pas un imbécile, continue en disant « Voilà comment on le fait brave après sa mort, pour le récompenser de la pauvreté qu'il a eue sa vie durant. » Ah ben oui, parce que quand même, Pierre, prince de l'Église, fondateur, comment pourrait-il se promener pieds nus ou avoir une sandale? Alors déjà, la sandale, vous savez, c'est un article de luxe. Voilà. C'est pour ça que ça m'étonne toujours quand Jésus me demande de prendre une paire de sandales, parce que c'est un article de luxe. Le commun des mortels se déplace pieds nus avec des sandales. Récompenser de la pauvreté qu'il a eue sa vie durant. Et d'ailleurs, comment continue Calvin, pour ce que les évêques de maintenant sont aussi mignons quand ils se mettent en leur pontificat, il leur semble avis que ce serait déroger la dignité des apôtres si on ne leur en faisait autant. Donc, argument que j'ai entendu dans le christianisme actuel. Voyez-vous. Au sens où l'évêque du XVIe siècle porte des satins brochés d'or, surtout que l'habit ecclésiastique du début du XVIe siècle, il y a une pièce de théâtre espagnole qui décrit ça très très bien, c'est absolument délicieux, parce qu'il n'y a pas d'habit ecclésiastique, justement. Donc ça part dans tous les sens. Et bien du coup, on s'imagine que Saint-Pierre, c'est pareil, au nom de la dignité. Et c'est pour ça que dans tous les portraits de Saint-Pierre, qu'on vous le représente, avec des grandes robes de majestueuses, etc. Donc, Calvin nous dit, eh ben, tout ça, c'est du grand n'importe quoi. Bon, il n'a peut-être pas complètement tort. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait, en fait. Vous voyez, de fait, là où la réforme calviniste s'impose, eh bien, les reliques et les reliquaires sont détruits. Si vous avez suivi mon histoire, ça veut donc dire qu'en France, au XVIe siècle, il y a un mouvement de destruction massive ou un mouvement massif de destruction des reliques dans tous les endroits touchés par la réforme calviniste. Alors faites bien attention parce que notre géographie protestante actuelle ne dit rien de la portée de la réforme au XVIe siècle. La réforme au XVIe siècle va de Lyon jusqu'à Rouen, en faisant le tour par le sud. D'accord ? Donc, c'est la moitié sud du royaume. Lyon. Ensuite, vous avez évidemment les grandes terres cévenoles, mais il faut bien imaginer Montpellier. Il faut bien imaginer également tout ce qui est du côté, eh ben, évidemment, du pays de Périgord, du Gers, des Pyrénées. Et vous remontez de l'autre côté. On imagine mal que la Vendée, qui n'existe pas de toute façon, puisque c'est un pur produit de la Révolution, la Vendée. J'espère qu'il n'y a pas de Vendéens parmi vous, parce que c'est un sujet sur lequel je suis un petit peu pénible. Donc la Vendée n'existe pas. Eh bien, la Vendée est complètement protestante au XVIe siècle. Et vous remontez jusqu'à Rouen, qui est une ville complètement réformée au XVIe siècle. Donc ça vous fait la moitié du royaume. Ça veut donc dire que le mouvement de destruction des reliques est un mouvement qui concerne une bonne partie de la France. Alors, j'aurais pu vous mettre des textes, mais en fait, c'était pas, c'est écrit dans un français un peu compliqué. Et du coup, je me tenais, enfin, c'était un peu compliqué d'analyse en plus. Mais en gros, on a par exemple, en 1534, à Montpellier, un bourgeois de Montpellier qui décrit ça très, très bien. Il raconte comment, un dimanche, à la suite de la prédication d'un prédicateur itinérant, donc identifié comme réformé, eh bien, la population de Montpellier rentre dans les églises pour aller prendre les reliquaires et faire deux choses. La première, récupérer l'argent, enfin les métals précieux, et la deuxième, détruire les reliques en les brûlant, en les, enfin, faisant tout ce qu'on peut faire pour de matière de destruction ou de profanation. Et ça, c'est de ce point de vue-là, bon, ça, c'est quelque chose que les réformés font avec beaucoup, avec les images et ces témoignages, en fait, de la violence des guerres de religion en France. C'est-à-dire, une profanation habituelle consiste à donner les os à ronger à des cochons, par exemple, ou des choses comme ça, pour montrer l'animalisation la plus forte qu'on a. Voilà. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Il faut juste qu'on sache que ça existe, que, par exemple, je prends cet exemple-là, à Lyon, au moment de l'arrivée de la réforme à Lyon, 177 reliquaires sont jetés dans le Rhône, pour être sûr qu'on ne les récupère pas. Voilà, donc il y a quand même une réelle violence vis-à-vis de l'image. Question, que fait le pouvoir politique durant ces profanations? Ah ben, le pouvoir politique est bien en peine de faire quelque chose. Il ne faut pas oublier que le pouvoir politique du XVIe siècle est terriblement faible. Je vous remets juste à une question de... En fait, bon, on imagine que la monarchie des XVIe et XVIIe siècles, et même du XVIIIe siècle, c'est comme, permettez-moi l'affaire, c'est comme la monarchie de Poutine, mais non, en fait, Poutine a 100 fois plus de pouvoir que Louis XIV. On ne s'en rend pas compte de ça. N'oubliez jamais que pour aller de Paris à Toulouse au XVIe siècle, il faut 3 semaines dans chaque sens. Si je sais compter, ça fait 6 semaines. Aller-retour. Si donc le gouverneur de Toulouse avertit le roi de France, qui est, bon, ok, pas à Paris, un peu plus au sud, mais enfin bon, qui a des problèmes, pour obtenir une réponse, il faut qu'il compte 6 semaines. En 6 semaines, vous avez le temps de faire beaucoup de choses. Donc, ça veut dire que les autorités locales ont énormément d'autonomie, beaucoup plus que ce qu'on imagine. Après, qu'est-ce que vous faites avec ça? Par exemple, dans le cas de Montpellier, qui est bien documenté par ce bourgeois, dans le cas de Montpellier, les autorités militaires de Montpellier tentent de sauver d'abord l'essentiel. Eh bien, l'essentiel, c'est quoi? C'est les hommes. C'est-à-dire d'empêcher le massacre des religieux, des religieuses et des prêtres par les réformés. Ça, c'est prioritaire par rapport à la sauvegarde des reliques. Ça paraît plutôt raisonnable. Voyez. Après, la deuxième chose que font les autorités militaires de Montpellier, pour vous montrer un peu comment on agit, c'est de récupérer toutes les reliques qu'il y a partout dans les églises de Montpellier et de toutes les rassembler dans une place forte. Donc ça, c'est la manière, si vous voulez, préventive, de tenter de sauver ce qu'on peut. Après, si vous avez une population déchaînée, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous voyez bien, quelque part, ce qui se passe en Martinique ou en Guadeloupe depuis quelques mois montre bien comment on réagit face à une population déchaînée. C'est très compliqué, en fait, parce qu'aucun pouvoir politique n'a envie d'envoyer une armée qui risque en plus de passer du mauvais côté. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que pour que des protestants jettent les reliques ou les profanes, il faut qu'ils soient suffisamment nombreux. Ça, c'est une vraie question, beaucoup d'histoire religieuse qui n'est pas résolue. La France du Sud bascule dans le protestantisme en moins de 2 ans. C'est extrêmement rapide. En fait, bon. Voyez. Donc du coup, il est possible que le catholicisme soit tellement minoritaire qu'en fait la question du pouvoir politique ne se posait même pas. En tout cas, dans le cas de Lyon, c'est le cas. Ou alors, sinon, vous retombez. Et c'est dans le Dauphiné, ça s'est bien documenté avec les atrocités du baron des Adrets, mais vous vous lancez dans des séries d'atrocités sans fin. Or, c'est précisément ce que le pouvoir royal ne veut pas faire. Le pouvoir royal, qu'est-ce qu'il cherche à faire, lui? Il cherche à obtenir le moins de dégâts possible. D'où la multiplication des tentatives de conciliation, de pacification qui n'en finissent plus et qui échouent toujours. Voyez. Donc, mais ça, ce que je veux dire par là, c'est que quand il y a une violence qui obéit à des motifs religieux, c'est extrêmement difficile de la canaliser d'une manière ou d'une autre. Non. Prenez un exemple qui ne nous concerne pas de trop près. En Terre Sainte, il n'y aura jamais la paix tant que les deux parties ne la voudront pas. À l'heure actuelle, ni les Israéliens, ni les Palestiniens, de manière majoritaire, ne veulent la paix. Donc, vous n'avez aucune chance qu'elle se maintienne. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Donc, pour ce qui est des affrontements religieux en Europe, en fait, ils commencent en France, en tout cas en Allemagne, ils commencent en 1520 et ils se terminent en 1648. Si je sais compter, ça fait 128 ans de guerre. Et les derniers soubresauts, moi, je les vois en Allemagne en 1720. Aux Pays-Bas, ils commencent en 1540 et ils durent jusqu'en 1650. 100 ans. En Angleterre, ils commencent en 1530 et quelques. Eh bien, si vous voulez bien, ils durent jusqu'en 1690. Un siècle et demi de violence. La France s'en sort pas trop mal avec ça. Puisqu'en France, ça commence en 1530, les premières violences, et ça s'arrête à peu près en 1600. Parce que le pouvoir royal a pris quelques options un peu musclées quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bon. Je reviens à mon affaire. Donc, vous avez cette affaire-là, sachant que, bon, les violences, vous en avez des violences catholiques également dans l'autre sens, hein, parce que si ça vous tient à cœur, eh bien, vous faites des. Vous pouvez rentrer dans cette affaire-là. Alors, quelle a été la réaction catholique à cette affaire? Je voudrais d'abord signaler, en fait, la plus importante, qui a été la réaction doctrinale ou intellectuelle. C'est celle du Concile de Trente. Ça, je vous le dis parce que c'est quelque chose qui n'est pas si connu que ça, en fait. Le Concile de Trente, le christianisme de la deuxième moitié du XXe siècle accuse de bien des maux, est en fait un concile extrêmement équilibré. Quand on en lit les textes et quand on en lit les débats qui ont précédé les textes, beaucoup plus équilibré que ce qu'on imagine parfois. En fait. Alors, le Concile de Trente, lui, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Eh bien, il cherche à purifier le culte des reliques, c'est-à-dire à répondre à l'accusation qu'il admet parfaitement, parce que en fait, c'est tellement connu et évident qu'il ne peut pas dire le contraire, qu'il y a plein de fausses reliques en circulation. Et qu'en plus, une partie du culte des reliques est quand même défectueux. Défectueux, c'est-à-dire superstitieux. Donc, il cherche à purifier le culte des reliques tout en le gardant, voyez, sans le jeter complètement. Donc, vous comprenez que le Concile de Trente refuse la voie de Calvin, je jette tout, et il refuse également la voie de Lefèvre d'Étaples, je garde tout. Bon. Du coup, la question se déplace. Parce que là, la question n'est plus celle de la résurrection des morts, elle est celle de la communion des saints. Vous voyez la différence? Parce que si le calvinisme rejette le culte des reliques, bon, il y a bien sûr les problèmes des fausses reliques, mais c'est aussi fondamentalement au nom du rejet du dogme de la communion des saints tel que le comprend l'Église catholique. Alors, je vous ai mis le texte de la 25e session. Alors, la 25e session, on est le 3 décembre 1563, c'est la toute fin du concile. Ça veut donc dire que pour lui, ce n'était quand même pas le sujet prioritaire. Parce que le sujet prioritaire, c'était d'abord l'écriture sainte. C'est pour vous dire quand même la finesse intellectuelle du Concile de Trente. a bien compris que le premier sujet de débat réel, c'était l'Écriture sainte. Donc, premier décret sur l'Écriture. Deuxième sujet de débat réel, c'était qu'est-ce qui fait qu'un homme est juste devant Dieu ? Eh bien, du coup, deuxième décret, la justification, etc., etc. Donc, le décret sur les reliques, il arrive tout à la fin, parce qu'en fait, c'est quand même pas le sujet le plus intéressant, même si ça fait 10 heures qu'on parle de ça. Alors, vous avez un décret sur l'invocation, la vénération et les reliques des saints et sur les saintes images. Je vous ai mis 2 articles, donc ce n'est pas la totalité, parce que je ne vous ai pas mis tout ce qui concerne les images et le culte des saints. Je vous ai mis uniquement ce qui concerne les reliques. Alors, premier article, article 1822. Les fidèles doivent aussi vénérer les saints corps des martyrs et des autres saints. Je vais lire en entier, puis après, je commenterai. Et les autres saints qui vivent avec le Christ, eux qui ont été des membres vivants du Christ, temple du Saint-Esprit, et qui seront ressuscités et glorifiés par lui pour la vie éternelle. Par eux, Dieu accorde de nombreux bienfaits aux hommes. Aussi, ceux qui affirment qu'on ne doit ni honneur, ni vénération aux reliques des saints, ou bien que c'est inutilement que les fidèles les honorent, ainsi que les autres souvenirs sacrés, et qu'il est vain de visiter les lieux de leurs martyrs pour obtenir leur soutien, tout cela doit être totalement condamné, comme l'Église les a déjà condamnés autrefois et les condamne encore aujourd'hui. Alors, tous les mots, en fait, sont importants. C'est toujours le problème dans ces textes-là. Premier point. Les fidèles doivent aussi vénérer. Le vocabulaire est très important parce que le Concile de Trente distingue très clairement vénérer et adorer. Ce faisant, il ne fait que reprendre une distinction mise en place par saint Augustin au début du 5e siècle. Donc, c'est éminemment traditionnel. Mais parce que parfois, il y a cette accusation dans le protestantisme et dans le monde athée que les saints prennent la place de Dieu. Vous voyez, parfois, on entend des choses de ce genre-là. Le Concile de Trente dit, attention, adorer, c'est uniquement pour le Dieu, parce que tu adoreras le Seigneur, ton Dieu. Point barre. Donc, j'adore Dieu le Père, j'adore l'Esprit Saint, Esprit Saint, je l'adore aussi puisqu'il est Dieu. J'adore le Christ et j'adore la Sainte Trinité. Mais pour le reste, il n'y a pas d'adoration. Des raisons pour lesquelles j'ai osé, lorsque, je ne donnerai pas ce nom, c'est pas importe, peu importe, mon curé, c'est pas le Père Clazen, rassurez-vous, lorsque mon curé, c'est un ancien curé de Clamart quand même, lorsque mon curé a dit un jour en homélie, les saints que vous adorez, c'était il y a longtemps, je lui ai dit, je n'étais pas encore séminariste, tu ne peux pas dire ça. Tu n'as pas le droit de dire ça. Parce que moi, je n'adore que Dieu. Peu importe. Vénérer, ce n'est pas adorer. Vénérer, ça veut dire reconnaître comme étant honorable, vous voyez. Mais c'est beaucoup plus faible qu'adorer. Parce que adorer, ça veut dire je me mets à genoux à plat ventre, enfin, je suis tout petit devant. Devant les saints, c'est je reconnais qu'il y a une importance. C'est un petit différent. Voilà. Donc, les fidèles doivent aussi vénérer. Alors, comment est-ce qu'il continue ? Les saints corps. Corps. Donc, il ne prétend pas que c'est Dieu. Il ne prétend même pas qu'il y a l'âme. Il dit, c'est juste un corps, hein. C'est un bout de squelette. Non. Des martyrs. On commence par les martyrs parce qu'ils sont plus importants que les autres. Et des autres saints qui vivent avec le Christ. Alors là, vous retrouvez la résurrection des morts. Parce que le principe même d'un saint, c'est qu'il est vivant avec le Christ. Donc, on n'est pas dans la liste honorifique. On est dans l'affirmation sur le devenir spirituel. Eux qui ont été des membres vivants du Christ. Donc, ils vivent avec le Christ aujourd'hui parce qu'autrefois, ils ont vécu avec le Christ. Donc, ce n'est même pas une question d'héroïsme. C'est une question de ce qu'a été le cœur de leur vie. Eux qui ont été des temples du Saint-Esprit. Le corps, donc on a Saint-Paul qui est derrière, qui est le temple du Saint-Esprit. Ah, si, lorsque nous recevons la communion, nous rappelions que notre corps est fait pour être le temple du Saint-Esprit, je crois que ça nous aiderait pas mal, en fait. Nous, au premier, vous savez. Et qui seront ressuscités et glorifiés par lui pour la vie éternelle, voilà ce que c'est qu'un saint corps. Donc, du coup, les saintes reliques se greffent là-dessus. Et non, du coup. Ça, c'était la partie ancienne. Partie médiévale, Dieu accorde de nombreux bienfaits aux hommes par ses corps. Résumé de la doctrine médiévale, ce que j'ai essayé de vous expliquer pendant je ne sais combien d'heures. D'accord ? Voilà, donc je réaffirme la doctrine, mais quand même de manière nuancée. Je continue. Article 1825. Si certains abus s'étaient glissés dans ces saintes et salutaires pratiques, le Saint-Concile désire vivement qu'ils soient entièrement abolis, en sorte qu'on n'expose aucune image porteuse d'une fausse doctrine et pouvant être l'occasion d'une erreur dangereuse pour les gens simples. Je continue. On supprimera donc toute superstition dans l'invocation des saints, dans la vénération des reliques ou dans un usage sacré des images. Toute recherche de gains honteux sera éliminée. Enfin, toute indécence sera évitée, en sorte que les images ne soient ni peintes ni ornées d'une beauté provocante. Donc ça ne concerne pas les reliques, mais les images. Pour que cela soit plus fidèlement observé, le Saint-Concile statue qu'il n'est permis à personne, dans aucun lieu, de placer ou faire placer une image inhabituelle, à moins que celle-ci n'ait été approuvée par l'évêque. On ne reconnaîtra pas de nouveaux miracles. On ne recevra pas de nouvelles reliques sans l'examen et l'approbation de l'évêque. Je crois que le texte est assez clair. Alors, vous voyez que le texte du Concile de Trente est extrêmement concret, en fait. Alors, je reprends quelques éléments de cet article-là, parce que ensuite, je terminerai par la manière dont on a essayé d'appliquer le Concile de Trente. Donc, le Concile de Trente, alors évidemment, bon, ça c'est une petite coquetterie ecclésiastique, si certains abus s'étaient glissés, non, mais c'est évident que les abus se sont glissés, bon. Le Saint-Concile désire vivement qu'il soit entièrement aboli. Purification. Vous voyez, le Concile de Trente demande la purification du culte des abus. Mais ce qu'il a fait également pour le reste, en fait. Hein. C'est pour ça qu'il y a toute une partie du Concile de Trente qui est absolument indigeste à lire, qui s'appelle les décrets de réformation, qui sont des décrets sur la réforme de la vie, notamment des clercs. Parce que le clergé du XVe siècle, objectivement, ce n'est pas brillant. Et parfois, le clergé du XXIe siècle, ce n'est pas très brillant non plus, en fait. Mais ça, c'est un autre problème. Premier abus à abolir. Exposer une image porteuse d'une fausse doctrine. Je répondrai à la question sur les icônes plus tard. La premier abus, image porteuse d'une fausse doctrine. Par exemple, une image. Alors ça, c'est pour les images qui diraient quelque chose qui serait faux par rapport à la Vierge Marie, par rapport au saint, ou je ne sais pas quoi. Mais ça veut aussi dire les reliques qui seraient complètement fausses, parce qu'elles entraîneraient une erreur dangereuse pour les gens simples. Donc, ce que je cherche à protéger, c'est d'abord la foi. Donc, purification d'abord par la foi. Deuxième chose, on supprimera donc toute superstition dans l'invocation des saints, dans la vénération des reliques. Par exemple, type de superstition qui consisterait à dire « il faut sortir les reliques de machin pour obtenir la pluie, le beau temps ou la fin des séismes, ou je ne sais pas quoi ». Vous voyez, ça c'est un usage superstitieux. Usage sacré des images. Alors, par rapport aux icônes, n'oubliez jamais que un concile suppose toujours les conciles précédents. Ça, c'est vrai du Concile Vatican II, hein, qui suppose tous les conciles précédents. Donc, le Concile de Trente suppose tous les conciles précédents, et en particulier le Concile de Nicée II. Et, dit de manière équilibrée, de quelle manière je dois vénérer les images. Alors, Nicée II, on est au 8e siècle, est témoin d'une vraie différence entre le monde grec ou oriental et le monde latin. Au sens où le monde grec ou oriental est un monde qui est convaincu de la vérité de l'image, alors que le monde latin est convaincu de la fausseté de l'image, de son côté représentatif. Vous voyez la différence. C'est pas un hasard si le judaïsme, l'islam et une certaine partie de l'orthodoxie qui refuse Nicée II, refuse les images plaintes, parce que ça veut dire que c'est vraiment là. Bon. Il y a une question anthropologique sous-jacente. Bon. Au contraire, l'orthodoxie qui accepte Nicée II surcharge de l'autre côté sur la réalité de la présence de visage. Mais c'est le même raisonnement en miroir. Voyez. Alors que la spiritualité latine insiste sur le caractère représentatif de l'image. Sauf dans certains cas où une image sera porteuse de miracles. Bon. Donc l'usage sacré des images, ça serait par exemple de dire, et voyez, je prendrai, si vous voulez, un exemple un peu contemporain pour vous faire comprendre. Quel usage je fais du tableau de la Divine Miséricorde de Sainte Faustine Kowalska? Quel usage j'en fais? Je crois que dans l'Occident latin, si c'est quelque chose qui m'aide à la piété, tant mieux. Bon, à titre personnel, je ne trouve pas ça très beau, mais ça, c'est un problème, un jugement esthétique très personnel. Et vous voyez, si ce tableau-là, je dis que c'est ce tableau-là qui me sauve, ça fait une superstition dans l'usage des images. Donc, la phrase dit « on supprimera toute superstition dans un usage sacré des images ». On ne supprime pas l'usage sacré, on supprime la superstition dans l'usage sacré des images. C'est-à-dire que je laisse l'image à statut d'image. Et n'oubliez jamais que le Concile de Trente ne cherche pas à dialoguer avec les orthodoxes, il dialogue avec les protestants. Or, qu'est-ce que contestent les protestants? Précisément l'existence même de l'image. En tout cas, le calvinisme, ainsi que tout ce qui est en Suisse, en fait. Il n'y a que Luther qui accepte les images. Donc, du coup, j'admets les images, mais attention à la manière dont j'y recours. C'est toujours cette manière un peu fine de résoudre la question. C'est de dire, je ne tais pas le bébé avec l'eau. Essayez de purifier les pratiques tout en gardant le bien fondé parce qu'elles sont bien fondées. C'est une question, vous savez, pastorale, qui n'est pas simple. Hein. Parce que lorsqu'on sent qu'il y a des choses qui sont un petit peu tordues, qu'est-ce que je fais, moi? Je l'interdis complètement au risque de braquer les gens et de dire tant pis, il n'y a plus rien. Moi, ce que j'essaye d'accompagner au mieux que je peux. J'ai peut-être déjà parlé de ça, mais moi, j'ai un groupe de paroissiens qui sont absolument convaincus qu'il faut absolument dire le chapelet à 18h précises. À titre personnel, je pense que c'est ridicule. Mais qu'est-ce que je fais? Je leur dis, vous n'avez pas le droit de dire le chapelet à 18h précises. Ou est-ce que je les encourage en disant, le chapelet, c'est bien, en fermant les yeux sur l'horaire ou la mécanique de l'horaire? Vous voyez ce que je veux dire? Ben, c'est à peu près le même genre de problème que soulève le Concile de Trente. En demandant au pasteur d'enlever toute superstition dans les pratiques de dévotion, sans pour autant supprimer la pratique de dévotion. Ça peut se jouer à bien des manières. Hein. Alors, je continue. On supprimera aussi toute recherche de gains honteux. Ah, le scandale du commerce. Que ce soit le commerce des reliques ou que ce soit tout, le commerce des pèlerinages. Je ne reviens pas dessus. Et le Concile de Trente essaye de faire en sorte que les prescriptions soient réalisées. Et du coup, qu'est-ce qu'il dit? Pas de nouvelle image, si ce n'est celle qui a été approuvée par l'évêque. Je laisse de côté les images. Pas de nouvelle relique, si ce n'est celle approuvée par l'évêque. Donc, du coup, le Concile de Trente répond à la question de la piété par la question de l'autorité. Ah, ça tombe bien, parce que alors là, pose-toi, parce que ça, c'est une belle question à propos du synode. C'est une belle question à propos du synode. Voyez-vous, je ne suis pas sûr qu'on se la pose suffisamment d'ailleurs, en fait. Dans les questions de gouvernement, à quoi sert l'autorité de l'évêque? À quoi sert l'autorité du curé? Eh bien, peut-être bien à empêcher les superstitions, ou à les cadrer, ou à les limiter, ou bien à empêcher que prennent trop de place ceci ou cela. Ben, c'est une question, en fait, qu'il faut se poser. Parce que si je laisse tout du côté de l'initiative, ben, il risquera d'avoir des dérives. Il n'y a aucune raison que ça ne recommence pas, en fait. Alors après, vous vous rappelez quand même le texte de Raoul Glaber qui disait que l'autorité était quand même très déficiente, puisque les évêques de Grenoble et compagnie s'accommodaient quand même très très bien d'une superstition sur laquelle ils fermaient les yeux. C'est vrai. Raison pour laquelle le Concile de Trente demande une vraie réforme de l'autorité. Bon, vous voyez, c'est pour ça qu'il n'y a jamais de solution ultime, en fait. Mais j'insiste quand même là-dessus, c'est que bon, en gros, la réponse du Concile de Trente, c'est l'appel à l'autorité qui doit examiner et approuver les nouvelles reliques et les nouveaux miracles. Ça met fin à la reconnaissance par le peuple. Vous voyez ? Reconnaissance par l'autorité. Bon. Mais au nom, en fait, de la vérité. Alors, ce n'est pas pour dire que seul l'évêque sera le spécialiste ou compétent, etc., mais pour dire qu'il est le garant de l'autorité. C'est plus comme ça que ça fonctionne, en fait. Et du coup, je fais l'aller-retour, mais j'avais arrêté, la question actuelle du synode qui se pose, elle se pose de cette manière-là, en fait. L'exercice de l'autorité. Qui exerce l'autorité et au nom de quoi? Ce n'est pas une question simple. Hein. Ce n'est vraiment pas une question simple. Non. Alors, maintenant, je voudrais qu'on avance. Comment est-ce qu'on applique le Concile de Trente? Du coup, parce que ce n'est pas tout d'avoir un petit article qui nous dit ce qu'on doit faire, c'est comment on fait maintenant. Parce que, ok, nous, on est, je ne sais pas pourquoi, on croit que l'époque moderne, donc les 16e et 17e siècles, sont comme, je suis un peu dur, mais en gros, comme l'Europe occidentale de la fin du 19e siècle. En fait, ce n'est pas parce qu'un texte est pondu qu'il est suivi. Je vous donne cet exemple-là. Le Concile de Trente demande la fondation de séminaires pour la formation des prêtres. Est-ce que vous savez de quand date le premier séminaire en France ? 1642. Soit, si je sais compter, 80 ans après le Concile de Trente. 80 ans, c'est-à-dire 3 générations. Donc, faut pas non plus. En fait, l'application du Concile de Trente a pris 3 siècles, c'est de manière générale. Donc, du coup, c'est pas parce qu'un texte est publié qu'il est appliqué. Simplement, il devient une norme et que chercher d'une certaine manière à l'appliquer. Alors, je ne vais pas trop m'intéresser aux questions politiques, mais c'est plutôt au niveau de la base parce qu'elles sont assez révélatrices. Alors, je vais le faire de plusieurs manières. Première manière. Puisque on demande l'approbation épiscopale, on demande l'examen des reliques. Eh bien, le XVIe siècle a du coup inventé un grand mouvement d'historicisation relique, d'enquête historique sur les reliques, qui, au Moyen-Âge, était globalement absent. Ça ne veut pas dire que ça n'existait pas parfois. Par exemple, lorsque les moines de la Sainte-Baume cherchent à prouver qu'ils ont la vraie Madeleine, ils nous font toute une démonstration historique. Donc, on a parfois des choses comme ça. Mais l'époque médiévale ne cherche pas tellement à distinguer la légende du récit historique. Parce que d'ailleurs, la légende en latin, ça veut dire quoi? Eh bien, ce qu'on raconte. Donc, en fait, le récit, c'est ce qu'on raconte aussi. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas rationnel, parce que j'ai dit, on est rationnel, mais la rationalité s'exerce peut-être de manière un peu différente. Alors, le XVIe siècle, lui, au contraire, prend à bras le corps la question des fausses reliques. Du coup, vous vous retrouvez dans tous les endroits où le Concile de Trente est appliqué avec des enquêtes. Qui dit enquête dit étude sérieuse. Des archives, des documents, de ce qu'on raconte, etc., etc. Pour faire cette enquête, vous avez d'abord un inventaire des reliques. Ça n'avait jamais été fait. Vous voyez, si Calvin, en 1543, peut écrire son traité des reliques qui est un inventaire, c'est parce que ça n'a jamais été fait. Eh bien, on se met à faire un inventaire des reliques qu'on a dans chaque église, dans chaque diocèse. À quoi ça sert un tel inventaire? Eh bien, d'éviter l'arrivée de nouvelles fausses reliques. Parce qu'il faut deux générations pour avoir une fausse relique. Si vous avez des gens un peu crédules. Donc, je fais un inventaire. Lorsque je fais un inventaire, eh bien, j'en viens à faire le ménage. C'est-à-dire, j'élimine les reliques dont l'authenticité est douteuse. Alors, faites attention. Cela ne supprime pas complètement les abus. Par exemple, à Beaucaire, on vénère depuis longtemps la relique du soulier de la Vierge Marie. Bon, je me dirais que ça fait quand même beaucoup de gens qui ont des souliers qu'on a conservés partout. Enfin bon, peu importe. Les clergés de Beaucaire est assez loyal et donc demande à l'évêque d'Avignon, dont dépend la ville de Beaucaire, d'authentifier les reliques. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour authentifier? On regarde l'histoire. Ça fait combien de temps qu'elle est chez nous? Elle sort d'où? Pour voir si on arrive à avoir une trace un peu tangible. Jusque-là, c'est facile. Et puis, on a un deuxième moyen d'authentification. Parce que l'évêque d'Avignon est un peu embêté quand même. Pourquoi il est embêté? Parce que la tradition de se souvenir de la Vierge Marie à Beaucaire est quand même pas très solide. Et quand même, jeter le soulier de la Vierge Marie, c'est embêtant. Pourquoi? Et parce qu'à Beaucaire, vous avez une grande foire. Alors là, ce n'est pas un argument économique, c'est un argument pastoral. Voyez-vous, nos commerçants de Beaucaire, lui, ce qui l'intéresse, c'est son commerce. Moi qui suis pasteur, ce qui m'intéresse, c'est que le commerçant ait une vie spirituelle. Quel argument spirituel je vais avoir pour inciter le commerçant itinérant à ne pas oublier sa vie spirituelle et pas se contenter simplement de ses gains? Ah ben, le soulier de la Vierge Marie, c'est quand même pas mal. Voyez, et je retombe sur le fèvre d'étape. Le problème, c'est que j'ai besoin d'une authentification. Alors, qu'est-ce que fait l'évêque d'Avignon? Eh bien, il prend le soulier, il prend un possédé qu'il trouve quelque part, et il cherche à exorciser le possédé avec le soulier de la Vierge Marie. C'est-à-dire, il applique le soulier sur le possédé en disant, bah, si c'est une vraie relique, qu'est-ce qui va se passer? C'est inévitable. Puisque la relique fait du bien, le possédé va retrouver sa santé mentale. Donc, tout ira bien. Eh bien, ça marche. C'est extraordinaire. L'évêque d'Avignon a simplement oublié la prudence de Raoul Le Calabert, qui faisait remarquer, comme l'a lu la semaine dernière, que parfois Dieu opère des miracles qui ne servent pas du tout à prouver l'authenticité d'une relique. Ou peut-être, j'en sais rien, j'y étais pas, que l'application de ce soulier était simplement une médecine homéopathique pour le posséder, et que ça a suffi pour lui. Je veux dire par là que du coup, l'argument était un petit peu faiblard. Conséquence, l'évêque d'Avignon authentifie la relique du soulier de la Vierge Marie à Beaucaire. Le soulier est un magnifique soulier du XIe siècle. Alors, vous voyez, c'est là où la question est délicate, parce que vous authentifiez, mais ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que l'évêque d'Avignon a authentifié l'historicité du soulier de la Vierge Marie? Peut-être. Ce qu'il a surtout authentifié, c'est la possibilité d'une vénération de ce soulier. Mais voyez le problème, c'est qu'ils cherchent à garder une certaine orthodoxie sans jamais décourager les fidèles. C'est une question, vous savez, parfois je m'exprime comme pasteur, mais c'est une vraie question que j'ai, moi. Bon. Lorsque j'ai des gens, quand je célèbre la messe en semaine, qui vont mettre leur cierge devant le tabernacle, mais alors qu'il y a Jésus sur l'autel, c'est complètement ridicule, en fait. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois leur dire, fais pas ça? Mais mets-toi devant le tabernacle, s'il comprend pas, il va s'en aller, en fait. Ben, du coup, moi, j'ai rien gagné. C'est une question, en fait, c'est la même question qui s'est posée vis-à-vis du folklore. Et que les prêtres qui sont en Provence, parce que c'est le seul endroit où il reste à peu près du folklore, se posent. Parce que si j'interdis tout le folklore, j'ai plus personne. Donc si j'ai plus personne, j'ai plus aucune occasion d'annoncer le Christ. Parce qu'il faut pas se leurrer. Moi, je passe ma vie à parler à des gens qui sont convaincus. Je parle jamais à un non-chrétien. Voyez. Donc. On fait le ménage. Pour faire le ménage, eh bien, une société de spécialistes a été créée. Alors, cette histoire-là, ça vient de certains jésuites hollandais qui s'appelaient Hubert Oswald. En Hollande, la réforme protestante en Hollande, ça a été extrêmement violent. Hein. Enfin, j'insiste là-dessus, mais quand on connaît un peu l'Allemagne du Nord, on visite un certain nombre de villages qui ont été fondés par les catholiques fuyant la persécution protestante en Hollande. Donc, si j'ai besoin de m'en aller parce que je risque ma vie, c'est quand même violent. Donc, Erwin Roswald, lui, jésuite, est fasciné par les multiples saints légendaires. Et du coup, bon historien cherche à faire le ménage. Son successeur, un certain Jean Bolland, fait la même chose. Du coup, le pape fonde la société hollandiste. Une obscure société qui existe toujours. J'ai été ravi d'en rencontrer un membre vivant et qui avait moins de 90 ans. Il n'en a même que 50. Mais parce que pour être hollandiste, il faut être extrêmement fort, en fait. Alors, que fait un hollandiste? Un hollandiste, c'est un érudit qui fait le ménage dans toutes les histoires des saints et dans toutes les histoires des reliques. Donc, c'est un travail extrêmement érudit parce que ça ne se décrète pas en deux minutes. Donc, parce qu'il faut maîtriser plusieurs disciplines à la fois. Et Jean Bolland, comme Erwin Roswald, avait commencé dans ce sens-là. Il faut maîtriser l'histoire. Il faut aussi maîtriser les genres littéraires. Savoir qu'un récit hagiographique ou une vie de saint, ça se lit jamais au pied de la lettre. Vous voyez? Il faut étudier la possibilité de vraisemblance des transmissions. Voilà. Donc, les bollandistes deviennent les spécialistes pour ça. Autre exemple. Autre exemple de cet mouvement intellectuel qui cherche à authentifier les reliques. Le 4 août 1667, le pape Clément IX crée la congrégation des saintes reliques. Elle n'existe plus à ma connaissance. Quel est l'objet de cette congrégation? Eh bien, simplement de vérifier les reliques. Pourquoi? Parce qu'au XVIIe siècle, on a pris conscience que les martyrs des premiers siècles, nécessairement, ils avaient été enterrés au milieu des païens, puisqu'ils ont été enterrés dans des nécropoles. Ah! Alors, du coup, il ne suffit pas de trouver une nécropole pour trouver tous les saints. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec pas mal de fausses reliques, en fait. Du coup, il crée la congrégation des saintes reliques pour identifier les vrais martyrs dans les cimetières romains, de manière à n'avoir que des reliques de martyrs. Alors, pourquoi est-ce que ça se fait seulement à ce moment-là? C'est parce que le XVIIe siècle, c'est le grand moment de l'archéologie romaine. On fouille pour chercher. et on trouve, et on se demande ce qu'on trouve. Mais vous savez, c'est cette congrégation-là qui a découvert qu'un des moyens assez sûrs de l'identification des saints martyrs dans les cimetières romains, c'était le dessin de la palme. Voyez. Alors, ils l'ont fait au terme d'un certain raisonnement, etc. Mais aujourd'hui, c'est un symbole iconographique qui nous paraît évident. Il n'était pas complètement évident au XVIIe siècle. Donc, ça a rendu des services. Alors, premier point, du coup, c'était l'historicisation, la quête de l'authenticité historique, en disant, je dois proposer à la vénération des fidèles un truc qui soit quand même crédible. Et je ne peux pas tromper les gens. C'est quand même assez honnête hein, de faire cela, hein, avec les limites que j'ai soulignées. Deuxième point. Il n'en reste pas moins que le culte des reliques dans le monde catholique ne cesse absolument pas. Je crois même en fait que on a un genre d'inflation en fait au XVIIe et XVIIIe siècle. Quand je dis inflation, c'est qu'elles arrivent des pratiques de dévotion qui n'existaient pas avant. Premier type de pratique. Les translations. Translation veut dire transport. Vous avez expliqué qu'au 8e siècle, on avait déménagé un certain nombre de reliques pour les protéger des Vikings. Vous vous rappelez peut-être de cela. Normalement, au Moyen-Âge, quand on veut bénéficier du bienfait spirituel donné par une relique, bah, on fait un pèlerinage. C'est-à-dire qu'on va jusqu'à la relique. Eh bien, au XVIIe siècle, on invente le phénomène inverse. C'est la relique qui vient jusqu'à moi. C'est encore mieux. Ben, c'est un peu comme dans le monde charismatique actuel, où on prétend que pour que la bénédiction du Saint-Sacrement soit plus valide, il faut que je la fasse exactement sur la tête du bonhomme. Comme si la bénédiction générale ne suffisait pas. Ça vient jusqu'à moi. Plus besoin de me déplacer. Ça, cette affaire-là est au prix de, enfin, est assez révélatrice toujours de ce passage de l'objet au sujet. Ça qui est pour moi un changement anthropologique majeur. Hein. Parce que quand l'objet est prioritaire, c'est moi qui dois me déplacer pour aller le voir. Quand le sujet est devenu prioritaire, c'est l'objet qui doit se déplacer jusqu'à moi. N'entendez pas de ma part une critique, hein. Je constate simplement. De toute façon, je suis partie prenante de mon époque, hein. Je peux difficilement m'en extraire. Bon, après, voyez, on l'a encore aujourd'hui, hein, quand les reliques de Sainte Thérèse de Lisieux se promènent. Elles se promènent quand même assez souvent, hein, finalement, celles-là. C'est exactement pareil. Le bienfait va venir jusqu'à toi. Tu n'as plus besoin de te déplacer. Alors, et c'est extraordinaire, hein, d'ailleurs. À un moment où les transports n'ont jamais été aussi faciles. Je suis fasciné par ça parce que c'est pour ça que je dis que c'est une révolution anthropologique. Au Moyen-Âge, c'est extrêmement difficile de se déplacer, ne serait-ce que pour des raisons économiques. Pour des raisons économiques, pas pour des raisons matérielles, mais économiques. Parce que se déplacer, je n'ai pas de congé payé. Hein. Donc ça veut dire que j'ai des économies suffisantes, que j'abandonne mon travail. Et bien, je me déplace. Au XVIIe siècle, c'est déjà plus facile de se déplacer. Et n'en parlons pas au XXIe siècle. Eh bien, il faut que ça vienne jusqu'à moi. Ça, c'est bien la preuve que le sujet est devenu central. Non. En tout cas, je vous invite à y réfléchir parce que je crois qu'au niveau pastoral, au niveau de l'intelligence de la foi et de sa transmission, ça a quand même pas mal de conséquences. Alors, translation des reliques. Alors, les translations des reliques, c'est toujours extraordinaire au XVIIe siècle. Parce qu'à chaque fois que les reliques se promènent, il se passe plein de trucs. Je vous donne un exemple. En 1641, on décide promener une relique de Saint-Martin. La relique de Saint-Martin n'était déjà plus à Tours. Elle était en Bourgogne, à Autun, toujours dans le mouvement de déplacement pour fuir les Vikings. Mais on décide de la ramener dans le pays de Tourangeau, entre Saint-Julien de Tours et Marmoutier, bon, village à proximité immédiate de Tours. Donc, comment ça marche? Ça veut dire que pendant une journée, vous allez promener la relique sous la forme d'une procession, etc. Alors, j'aurais pu vous mettre le texte, j'en ai d'autres du même genre. En fait, c'est assez fastidieux à lire, en fait. Mais ça, peut-être que j'en lirai un autre pour vous montrer comment on fait, parce que c'est assez marrant. Enfin, ça permet de voir un peu concrètement comment on fait. Bon, pour le moment, j'en suis pour les effets. En une seule journée, la relique de Saint-Martin de Tours, promenée entre Saint-Julien de Tours et Marmoutier, fait 12 miracles. Bon. Plus d'un miracle par heure. Un miracle toutes les 30 minutes. C'est énorme, hein? Alors, n'oubliez pas qu'en plus, on est à l'époque d'autorité épiscopale. N'oubliez pas l'application du Concile de Trente. Aucun nouveau miracle ne sera reconnu sans l'examen et l'approbation de l'évêque. Donc, je ne vous parle pas de racontard. 12 miracles. Un bras a été guéri. Donc, quelqu'un qui était paralysé de son bras a retrouvé l'usage de son bras. Quelqu'un qui avait mal à la cuisse a été guéri de son mal à la cuisse. Une troisième personne qui avait une douleur au bras a été guérie de cette douleur au bras. C'est toujours des choses un peu physiques. Une quatrième personne avait une fièvre qui n'en finissait plus, a été guérie de cette fièvre. Une cinquième personne a été guérie de son pied qui était tordu. Une sixième personne a été guérie de sa surdité, donc a retrouvé Louis. Une septième personne a été guérie des écrouelles. Une huitième a été guérie d'hydropisie. Et je vous fais grâce des quatre dernières. 12 guérisons en une journée. Avec donc du coup l'idée que les gens se précipitent sur le passage de la relique pour en obtenir un bienfait. Mais vous savez, d'où ça vient, ça? Ça vient de Saint-Pierre et Saint-Paul. Saint-Pierre se promenant au temple, et la seule ombre de Saint-Pierre passant par là guérissait de nombreux malades. C'est encore plus fort que Jésus. Parce que Jésus, il faut le toucher. Saint-Pierre, juste l'ombre. Et bien maintenant, j'ai la relique exposée, ça suffit. C'est la même logique. Alors, voyez, cette dévotion, elle dit que Dieu est encore présent. Alors, si vous en voulez l'équivalent contemporain, qui n'est pas tellement du côté de la dévotion, mais qui est en fait du côté du mouvement charismatique. Et il ne faut pas prétendre que c'est tout de suite faux. En tout cas, le jugement qu'on doit porter dessus doit être assez équilibré. Lorsque des gens organisent des prières de guérison, on peut être sceptique, on peut être tout ce qu'on veut, mais n'empêche qu'il y a des gens guéris. On peut dire que c'est de l'autosuggestion. Peut-être. Mais bon. Ah, quelqu'un, j'ai pas répondu à la question sur les Bollandistes. Ah non, mais les Bollandistes, c'est pas des amateurs, hein, c'est des actifs à temps plein. Hein. Là, c'est pour en faire partie, c'est très sélectif. Et ils sont 4 ou 5 dans le monde. Celui que je connais est en même temps prêtre au séminaire Saint-Sulpice. C'est un Argentin qui est spécialiste d'histoire, de Bible et de philosophie. Enfin, ce sont des gens extrêmement érudits. Non, c'est vraiment pas des amateurs. Là. Ça s'invente pas. Enfin, en plus, pour être recruté, il faut, voilà. Après, on fait pas non plus ça à temps plein. Au sens, on peut pas non plus, enfin, il a aussi d'autres choses dans sa vie, mais quand même, quoi. De toute façon, aujourd'hui, un prêtre, par définition, fait toujours trois choses à la fois. J'espère qu'on ne fait pas trop mal. Là, je reviens à mes pratiques de dévotion. Vous voyez, quand aujourd'hui, dans le mouvement charismatique, on nous explique que trois frères chrétiens qui prient sur un quatrième, ça vous procure une guérison. Ben oui, c'est évangélique. C'est marqué dans l'évangile. C'est marqué dans les actes des apôtres. Donc, il n'y a aucune raison que ce soit faux. C'est comme pour mes reliques. Après, comment j'accompagne, etc. etc. Bon, il peut y avoir des abus, c'est évident. Mais on a à peu près ce même monde-là, qui consiste à dire Dieu est encore présent. Et la guérison physique est la preuve que Dieu est encore présent. Par rapport au risque d'une spiritualisation à outrance. Il faut qu'on en fasse attention à ça. Hein. Parce que si je dis, oh, t'es malade, ben écoute, tant pis pour toi, ça sera mieux plus tard au paradis. Ah, ben ça, c'est une spiritualisation à outrance. T'es malade, va voir le médecin. Oui, c'est normal, il faut aller voir le médecin. Le médecin ne peut rien pour toi, ben c'est pas grave. suis pas sûr qu'on puisse en rester là. Alors, je continue. Puisque les reliques doivent venir jusqu'à moi, eh bien, on assiste au XVIIe siècle à une floraison de dévotions privées envers les reliques. J'entends l'invention de reliquaires domestiques. Donc, je n'ai plus les reliques à l'église, mais j'ai la relique chez moi. Quand je vous dis que la relique vient à moi, elle vient jusque dans ma chambre à coucher, en fait. C'est beaucoup plus fort que ce qu'on imagine, parce qu'en fait, la piété des gens fait que chez eux, ils ont des oratoires privés. Enfin, aujourd'hui, on appelle ça un coin prière, enfin, c'est pareil. Un bon témoignage pour l'historien, vous savez, ce sont les inventaires après décès. Parce que les inventaires après décès, bon, ça ne vous dit pas tout, mais ça dit des choses. À tout le moins, faites attention. Quand quelqu'un meurt en 1720, surtout que si quelqu'un a passé l'âge de 20 ans, il a de bonnes chances de vivre jusqu'à 70, 80 ans. Donc s'il meurt en 1720, ça veut donc dire qu'il a de bonnes chances d'être né vers 1650. Donc, il a l'âge d'être grand-père ou grand-mère. Donc, vous aurez l'intérieur d'un grand-père ou d'une grand-mère. Donc, vous ne faites pas un jugement sur les gens qui vivent en 1720, vous faites un jugement sur deux générations au-dessus. C'est juste pour pas se tromper. Mais n'empêche, les inventaires après décès, 45% des inventaires après décès examinés à Paris comportent des reliquaires. C'est énorme. Donc ça veut dire que la dévotion est très largement partagée. Et pas uniquement chez les gens riches, y compris dans les milieux populaires. Donc c'est quelque chose qui est partagé dans toutes les couches de la société. Alors dans les milieux les plus simples, qu'est-ce qu'on trouve? En fait, très simplement, un petit cadre vitré dans lequel il y a un minuscule fragment de relique. Un tout petit cadre privé dans lequel il y a un minuscule fragment de relique. Ben, ce sont toutes ces choses-là qui ont disparu à la Révolution française. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'avant le XVIe siècle, ce genre de truc, ça n'existe pas en fait. Ça se diffuse au XVIIe. Ça vient aussi de ce qu'il devient beaucoup plus facile de se procurer des reliques. Ah, c'est quand même intéressant de voir qu'à l'âge de la vérification, de l'authentification, ça devient beaucoup plus facile de se procurer des reliques. Bah oui, puisque on peut tracer les choses. Alors, je vais pour cela vous prendre un exemple parmi d'autres. Parce que quand je vous dis que c'est quelque chose qui est partagé, c'est vrai dans toutes les couches de la société. Alors, c'est la raison pour laquelle, en fait, de manière générale, je n'aime pas beaucoup l'expression religiosité populaire, surtout quand on la prend dans le sens de religion des gens simples. Pour moi, la seule religiosité populaire existante, c'est celle du peuple de Dieu. Et normalement, le peuple de Dieu fait fi des distinctions sociales. Donc, faisons vraiment attention à l'usage de ce genre de termes. Surtout que parfois, il s'agit d'une bonne manière pour un intellectuel de mépriser quelque chose qu'il ne veut pas voir, ou qu'il ne veut pas comprendre, en disant, oh, ça, c'est la foi des simples. C'est mon introduction. Pourquoi je prends ces précautions-là? C'est que je dis qu'elles sont unanimement partagées. Alors, je pourrais vraiment vous en donner des milliers d'exemples. Je commence très haut. Je n'ai pas le droit de vous en donner le texte parce qu'il n'est pas encore publié et qu'il va être publié cette année. Donc, par déontologie, je respecte mon droit. L'abbé Beurrier, ça s'invente pas. C'est son nom de famille. Mémoires sont en train d'être éditées. Il était curé de Nanterre au XVIIe siècle. Elle raconte très bien comment la reine Anne d'Autriche, donc l'épouse de Louis XIII, la mère de Louis XIV, passe son temps à fournir l'église Saint-Maurice de Nanterre et la petite chapelle Sainte-Geneviève de Nanterre en relique. Quel est l'intérêt pour Anne d'Autriche de multiplier les dotations en relique? Une petite église de banlieue. Alors, qui est un lieu, un sanctuaire, puisque Nanterre, c'est le lieu de naissance et de vie de Sainte-Geneviève, puisqu'à l'époque, Paris n'est pas à Paris, mais à Nanterre. Donc, il y a un vrai lieu de pèlerinage, mais en raison de la dévotion d'Anne d'Autriche pour Sainte-Geneviève, patronne de Paris et patronne de la famille royale. Eh bien, comment est-ce que je fais ma dévotion? En multipliant les dons de reliques, mais je ne vais pas mettre les reliques de Sainte-Geneviève. Non, d'autres. De tous les saints possibles et imaginables. Vous voyez? Donc ça, je vous ai tapé au sommet de la monarchie. Mais ce mouvement-là, moi, je le vois partout, hein. Dans toute l'Europe royale, catholique, je collectionne les reliques. Maintenant, je descends un peu dans la hiérarchie. Alors, j'en prends un exemple parce qu'il a été bien documenté dans un livre d'érudition locale, mais parfois l'érudition locale, c'est intéressant, parce qu'un personnage qui s'appelle le président d'Acquigny. Alors, président d'Acquigny, ça veut dire qu'il est magistrat au Parlement de Normandie. Donc, il vit à Rouen. Et il a énormément de terres du côté d'Acquigny. Donc, Acquigny, ça existe toujours, c'est à côté de Louviers. Donc, c'est dans l'Eure aujourd'hui. Donc, au bord de la Seine, et il a des terres assez importantes. Alors, dans l'histoire ecclésiastique, comme seigneur de ces terres, il est patron ecclésiastique. Donc, ça veut dire qu'il s'agit d'un laïc qui a l'autorité spirituelle sur ces terres. Donc, qui a une certaine autorité spirituelle sur ces terres. En particulier, c'est lui qui nomme les curés. Mais aussi, c'est lui qui a le souci de la piété des fidèles. Eh bien, que fait le président d'Acquigny vis-à-vis des reliques? Exactement cela. Il encourage la piété des fidèles envers les reliques. Et dans le même temps, il se soucie d'avoir l'aval de l'évêque. Donc, à Acquigny, l'évêque, c'est l'évêque d'Évreux. Alors, je vais un petit peu détailler ça parce qu'en fait, c'est assez révélateur. On est en pays protestant, hein, n'oubliez pas. Pas à l'époque du président d'Acquigny, qui est à la fin du XVIIe siècle, mais quand même, 2 générations avant, on est en plein pays protestant. On est aussi en pays janséniste. C'est-à-dire là, enfin, le jansénisme, en fait, bon, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais c'est un protestantisme qui ne dit pas son nom, en fait. Eh bien, il encourage la piété des fidèles envers les reliques de deux manières. Première manière, il valorise les dévotions proches. Donc, les dévotions proches, c'est la dévotion locale. Alors, vous voyez que là, j'ai complètement abandonné le dogme de la résurrection des morts. Et je suis complètement dans le dogme de la communion des saints. À savoir, quel culte des saints faut-il encourager? Eh bien, lui, il dit, le président d'Acquigny, mais je répète, c'est un laïc. Ce n'est pas une autorité ecclésiastique. Il dit, il faut assurer la dévotion proche, celle qui fait partie de l'environnement familier. Alors, qui est-ce qui trouve dans l'environnement familier? Eh bien, Saint Maux, Saint Vénérand. Bon, vous ne les connaissez pas? Moi non plus. Saint Maux et Saint Vénérand sont censés être les premiers martyrs de Normandie. Vous voyez, le saint local, c'est chez moi. Qui est une manière de dire, ah, dans vos terres, il y a eu des saints. Donc, chez vous, puisqu'il y a eu des saints dans vos terres, il y a 1000 ans, il peut encore y en avoir aujourd'hui. Au nom de la continuité de l'Église. C'est quelque chose, vous savez, qui se retrouve, ça, je prends cet exemple-là parce que je le connais, mais ça se retrouve dans toute l'Europe, hein, ce genre de phénomène, de valoriser la dévotion locale. Mais en s'assurant d'avoir le soutien épiscopal, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à l'évêque d'Évreux d'authentifier les reliques de Saint Maux et de Saint Vénérand qu'il a chez lui. Et quand elles sont authentifiées, il les installe en grande pompe. Donc ça, c'est le premier mouvement, le local. Deuxième mouvement, bah, on est quand même dans l'église du Concile de Trente, la diffusion des reliques romaine. Diffusion des reliques romaines, c'est-à-dire que, en fait, à la fin au XVIIe siècle, comme au XVIIIe siècle, vous avez, je vous ai dit, un mouvement de fouilles archéologiques à Rome, qui font qu'on se retrouve avec la fouille des catacombes, donc des nécropoles, donc plein de reliques à disposition. Donc, si vous avez quelques relations, par exemple, c'est le cas du président d'Aquigny, vous pouvez arriver à faire venir des reliques un peu prestigieuses chez vous. Et c'est ce que fait le président d'Aquigny, qui obtient des reliques de Sainte-Cécile pour sa paroisse d'Aquigny. Sainte-Cécile, jeune vierge, martyre à Rome. Donc, comme cela, j'espère vous faire sentir un peu ce que ça veut dire du dogme de la communion des saints. Vous avez la sainteté locale, celle qui est bien de chez nous, si vous voulez, si vous me permettez l'expression. Et puis, il y a en même temps la fidélité à Rome qui est affirmée, ou au minimum le lien avec l'Église de Rome, qui est quand même la première des Églises, et garante de l'unité de toutes les Églises. Ce que je viens de vous raconter pour le président d'Aquigny est vrai dans toute l'Europe des XVIIe et XVIIIe siècles. Sainte locale, par exemple, je vous donne cet exemple-là, vous avez peut-être entendu parler de Saint Jean-François Régis, Saint jésuite du XVIIIe siècle. C'est facile, c'est le seul saint français du XVIIIe siècle, donc comme il n'y en a pas d'autres, on prend celui-là. Ah, vous savez, moi, c'est un truc qui m'interroge. Hein. Quand un siècle entier ne produit aucun saint, ça veut donc dire que la déchristianisation ne date pas de 1780, mais qu'elle a déjà largement commencé en 1730. Sinon, hein, ça doit produire des saints. Les raisons pour lesquelles moi je m'inquiète que quand dans une paroisse, il n'y a aucun saint identifié. Et malheureusement, c'est plus fréquent qu'il y paraît. Alors, Saint Jean-François Régis, quand il meurt à la Louvesque, et que surtout, il est canonisé très rapidement d'ailleurs après sa mort, 1738, qu'est-ce qui se passe? Multiples pèlerins à la Louvesque pour récupérer les reliques de Saint Jean-François Régis. Mais des pèlerins locaux, d'Ardèche. Parce que c'est la sainteté locale, c'est le saint qui vient de chez moi. Et dans le même temps, le mouvement romain. Donc ça, c'est un mouvement qui va durer quand même assez longtemps. Lorsque l'on a des reliques comme ça qui arrivent chez nous, eh bien, on organise des processions pour les installer de manière très forte. Alors, je vous donne un petit peu ces exemples-là parce que pour ce qui est des translations de reliques, alors je ne vais pas vous lire le texte en entier parce que en fait c'est quand même vraiment extrêmement fastidieux, mais il s'agit toujours d'organiser les choses. Alors, on célèbre en fait des fêtes, on invente des fêtes d'installation des reliques dans un siècle qui n'a pas peur de l'innovation liturgique. Et donc, qu'est-ce qu'on vous raconte? Alors, je vous prends l'exemple des reliques de Sainte Austreberte et de Sainte Julienne et de Sainte Framekilde. Bon, ça, vous êtes vraiment dans la sainteté locale. Bon, Austreberte, c'est le nom mérovingien par excellence. Hein. Ça vous donne un petit répertoire de noms si vous ne savez pas comment appeler vos petits-enfants. C'est peut-être tout à fait intéressant parce que ça, pour le coup, ça sera original. Donc, Austreberte à Pavilly dans l'Eure. Sainte Framekilde, sa mère, encore une sainte mérovingienne. Et sainte Julienne, bon, ça c'est le classique qui est plus tard. Ok, et bien qu'est-ce qu'il faut? On prend toutes les reliques, on prépare solennellement, on chante tous les offices possibles et imaginables, et après on fait venir le doyen du doyenné de Rouen pour qu'il représente un clergé un peu plus important que quand même le desservant de d'Aquigny qui est quand même pas très important. On fait venir des chanoines, et tous ces gens-là partent en procession en chantant le Veni Creator, les invocations à Sainte Austreberte, les litanies de Sainte Julienne et celles de Sainte Framekilde. Bon, je ne suis pas sûr que les litanies de Sainte Framekilde existaient avant le XVIIe siècle. Ça veut aussi dire que du coup, on a composé les litanies de Sainte Framekilde. Mais si vous avez fait un mouvement de vérification, vous êtes capable de connaître la vie de Sainte Framekilde. Et donc, de chanter les litanies de Sainte Femme qui bon, si vous voulez, en tout cas. Et on nous raconte que ça se chante en répond, etc. La procession, après, qu'est-ce qu'elle se fait? On encense les reliques, on se met en marche et on fait le tour du bourg comme au jour du Saint-Sacrement. Et ça, c'est la phrase importante. Comme au jour de la fête de Dieu. Parce que les reliques, c'est comme si Dieu en personne est présent chez nous. Ça nous fait le même bien. C'est exactement la même logique. Voyez. Et on retrouve ce que j'ai déployé au début. Bon, je vous passe l'affaire. On rentre à l'intérieur de l'église. On rechante les offices, on célèbre la messe. Le chanoine Marescot fait un excellent sermon sur le culte des reliques. En trois points. Je vous en donne les trois points parce que quand même, c'est important. Premier point. Il a montré la vénération que l'on doit aux saintes reliques. Ah, Concile de Trente, il faut vénérer les reliques, pas les adorer. Deuxième point, la conscience que l'on doit avoir dans les reliques. Bah oui, parce qu'elles peuvent faire du bienfait, au sens où c'est Dieu qui est présent parmi nous. Troisième point, l'obligation où l'on est d'imiter les saints dont on possède les reliques. Ah, vous voyez que le clergé, lui, sa pastorale, c'est de rappeler que quand même le but, c'est ça. Donc, si vous voulez, d'élever le débat. Qu'il ne s'agit pas simplement d'obtenir la guérison de mes écrouelles, mais d'imiter les saints. Et c'est pareil hein, dans une paroisse contemporaine. Hein. Quand parfois certains fidèles accusent le prêtre d'être exigeant en matière spirituelle, mais il n'y a que ça en fait. C'est élever le débat. Par exemple, passer du dieu doudou à un vrai dieu. Avancer. Et puis ça continue. Ah ben, deuxième messe est célébrée, on chante encore un office, et puis après, on refait encore une procession dehors, donc deuxième procession des reliques. Enfin, en fait, vous voyez, ça n'en finit plus. Et puis après, on ressort le Saint-Sacrement quand même, bénédiction du Saint-Sacrement, et après, vénération des reliques pour tout le monde. Et ensuite, on rentre à la paroisse, à la maison. Bon, je ne vous ai pas lu le texte, parce que non, mon texte, il tient en 10 pages. Hein. La lecture de la description. Bon. Alors, je voudrais terminer dans les 10 minutes qui me restent simplement sur un petit point sur qu'est-ce qui s'est passé ensuite. Parce que évidemment, le Concile de Trente ne veut pas dire que la contestation a cessé. Et de fait, les philosophes des Lumières reprennent complètement les arguments du protestantisme contre le culte des reliques. Et en particulier l'argument des fausses reliques. Et du coup, qualifie le culte des reliques de superstition. Je vais vous en donner un exemple. Un dictionnaire, le dictionnaire de Trévoux, donc ce n'est pas le dictionnaire des Lumières, qu'est-ce qu'on y dit? On expose sur les autels des reliques très suspectes et sur lesquelles on n'a tout au plus que des conjectures mal assurées. Si l'on faisait la révision des reliques avec une exactitude rigoureuse, il se trouverait qu'on propose à la piété des fidèles bien de fausses reliques à révérer, et que l'on consacre des ossements qui, bien loin d'être d'un bienheureux, ne sont peut-être pas même d'un chrétien. C'est la même chose que ce que disait Calvin. C'est la même chose que ce que disaient certains médiévaux. Donc en fait, on constate bien que c'est encore le problème. Et deux siècles après, moi je dirais, on n'a pas beaucoup avancé en fait. Hein. Et peut-être parce qu'on est incapable d'avancer, en fait, au sens où on touche la limite de l'histoire. Alors, que fait la Révolution? Alors, attention. La période révolutionnaire commence avec une énorme dévotion envers les reliques. Et ça, si on ne le sait pas, ça ne s'invente pas. Mais c'est normal. Si les gens ont une piété envers les reliques au XVIIIe siècle, il n'y a aucune raison qu'en 1789, ça s'arrête tout d'un coup. Surtout si vous avez bien compris ce que je vous ai dit, c'est que cette piété, elle n'est pas uniquement le fruit d'une manipulation du clergé, puisqu'elle est enracinée dans le peuple. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui contestent. Mais ce n'est pas parce qu'il y en a qui contestent qu'il n'y en a pas d'autres qui partagent. Toujours une question. Prenons bien garde de parler à la place des autres, en fait. Un jour, un paroissien m'a dit « On n'a plus un credo, ça ennuie tout le monde. » Je lui ai posé la question « Est-ce que vous avez fait un sondage pour le savoir ?» ou est-ce que vous exprimez juste en votre nom propre, que vous projetez votre idée sur la question, sur tout le monde? Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais donner quelques exemples de cette dévotion envers les reliques à la Révolution. Dans la nuit du 12 au 13 juillet 1789, il y a une grande émeute à Paris. Bon, ça, c'est normal. Hein. Vous savez, Paris, il y a des émeutes à partir du début du mois de juin 1789. Les émeutiers pillent ce qu'on appelle la maison Saint-Lazare. Alors, la maison Saint-Lazare, c'est la maison des lazaristes. Donc, en fait, c'est en face de l'église Saint-Vincent-de-Paul, donc dans le 7e arrondissement actuel. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une banque. C'est intéressant. Ça m'amuse toujours quand les maisons dévolues aux pauvres deviennent des banques. Il y en a plusieurs en France comme ça. Voilà. C'est comme l'Hôtel Dieu de Marseille, magnifique Hôtel Dieu, devenu un hôtel de luxe de 5 étoiles. Comme dit Jean Guyon, qui commente la visite, c'est quand même un peu dommage que le meilleur hôtel fait pour accueillir les pauvres soit devenu un hôtel de luxe dont la chambre, la nuit, coûte au minimum 300 euros. Alors, lorsque les émeutiers pillent la maison Saint-Lazare, ils y trouvent le reliquaire de Saint-Vincent-de-Paul. Ben, c'est normal, puisque Saint-Vincent-de-Paul est le fondateur des lazaristes. Ils ne le détruisent pas. Mais, tenez-vous bien, ils le transportent en procession jusqu'à l'église Saint-Laurent pour le mettre en sécurité. Là, vous avez un témoignage très simple de la piété d'un homme. Alors, les émeutes des Parisiens, c'est le petit peuple et les petits bourgeois. Là, vous avez un très bon exemple de la manière dont ça se passe. Parce qu'en plus, ça veut dire qu'ils ont réussi à avoir un certain consensus pour le faire. Au sens, on ne nous raconte pas qu'il y en a qui se sont opposés, on ne raconte pas que ça a été une bagarre pour sauver le reliquaire de Saint-Vincent-de-Paul. Ou bien, le lendemain, le 13 juillet 1789, alors que c'est quand même, enfin, si vous avez bien compris, c'est quand même le bazar à Paris, au mois de juillet 1789, eh bien, on porte les reliques en procession. Alors, à la fois parce que le petit clergé est de toute façon du côté révolutionnaire, mais aussi parce que les révolutionnaires sont pieux. Donc, on fait des processions dans Paris, mais pourquoi faire? Eh bien, pour obtenir le bien. En fait, ce n'est pas très original. On sent bien que ça ne va pas, en fait. De toute façon, il y a crise de disette, il y a crise politique évidente. Bon, ben, on fait des processions de reliques pour obtenir de Dieu qu'il pacifie la situation. Ça témoigne quand même de la foi considérable des gens qui font ça. Je vous en donne un exemple. Le 18 juillet 1789, la châsse de Sainte-Geneviève était conservée dans l'église Sainte-Geneviève, c'est-à-dire l'actuel Panthéon, ou plutôt non, puisque comme il est en construction, pas terminé, déplacée momentanément dans l'actuelle église Saint-Étienne-du-Mont, cette châsse est exposée à la vénération. Le 18 juillet 1789, pourquoi faire? Pour remercier Sainte-Geneviève de la prise de la Bastille. Intéressant quand même. Alors, ne faites pas trop vite des révolutionnaires, des athées épouvantables. Sainte-Geneviève, patronne de Paris, a donc protégé Paris pendant les événements révolutionnaires. Voilà ce que disent les premiers révolutionnaires. Je reste avec Sainte-Geneviève. En 1791, l'église Sainte-Geneviève est terminée. Du coup, la châsse l'église de Sainte-Geneviève est remise dans son église. Que se passe-t-il le 14 août 1792? 14 août 1792, là, on est vraiment dans les pires émeutes révolutionnaires. Les révolutionnaires n'osent pas détruire la châsse de Sainte-Geneviève, mais la transportent à Saint-Étienne-du-Mont, donc en face. Donc, c'est plus fin qu'il n'y paraît. On a des choses similaires lors de la révolution russe de 1917. Hein. Parce que, en fait, les révolutionnaires, pour une part, partagent cette piété populaire. Pour une part. Mais seulement pour une part. Alors, c'est là où, pour la révolution, il y a une chose très compliquée et difficilement expliquée, et peut-être peu explicable, c'est l'espèce d'enchaînement qui se fait très vite. Parce que vous voyez, le 14 août 1792, je suis capable de transporter la chasse de Sainte-Geneviève pour éviter qu'elle ne soit détruite. Et le 3 décembre 1793, 3 mois plus tard, je brûle les reliques de Sainte-Geneviève, comme bien d'autres reliques à Paris. Qu'est-ce qui se passe pendant les 3 mois? Alors, ben ça, c'est difficile à expliquer. Pour première explication, ce n'est pas les mêmes qui ont pris le pouvoir. C'est possible. Deuxième explication, c'est les mêmes qui ont protégé Sainte-Geneviève et les mêmes qui l'ont brûlée. De la même manière que c'est les mêmes qui ont acclamé le Christ rentrant glorieusement à Jérusalem et les mêmes qui ont dit ensuite, ça crucifie-le. Donc, en fait, c'est tout à fait possible que ce soit les mêmes. Comment on explique ça? Ah ben, peut-être que tout d'un coup, j'ai un fanatisme anti-religieux qui arrive. Mais n'allez pas trop vite dans ce sens-là. En tout cas, moi, je fais une vraie différence entre la destruction des reliques par les calvinistes au XVIe siècle et la destruction des reliques au XVIIIe siècle, pendant la Révolution. En général, les révolutionnaires cherchent d'abord les métaux précieux. L'or, l'argent, le cuivre. Parce qu'en période de disette, c'est extrêmement intéressant à avoir. Et en général, ils laissent les reliques aux fidèles qui les demandent. C'est ce qui fait que beaucoup de reliques, en réalité, ont traversé la Révolution sans encombre. Il n'y a pas eu tant de destruction que ça de reliques à la Révolution. Il y en a eu, mais pas tant. En fait, dans l'histoire religieuse de la France, on a eu beaucoup plus dans les années 1960 qu'à la Révolution. Probablement, en fait, par ce que j'appelais l'intellectualisme ou le manque de foi. Après, je ne sais pas ce qu'il faut en faire ou pas en faire, mais parfois, c'est pas détruit, parfois, c'est simplement mis dans un placard. Ça prend la poussière. Bon, après, moi, je ne sais pas ce qu'il faut en faire. Mais voilà, je laisse avec ça, parce que l'histoire contemporaine est plus complexe. Je vous dis juste que la Révolution, dans sa folie antireligieuse la plus grande, ne s'en est pas complètement pris aux reliques. Parce que la société partageait assez largement le culte des reliques. Et du coup, au XIXe siècle, ce n'est pas très difficile de relancer le mouvement des reliques. Selon la même logique, relique locale, relique romaine, et qui dure, en fait, jusque la première moitié du XXe siècle. Alors, je vais m'arrêter là. Pour ça, peut-être, je ne sais pas s'il faut que je conclue quelque chose, en fait. Peut-être quand même, dans les 3-4 minutes qui restent, s'il y a des questions à recueillir, autres que celles qui ont déjà été posées. Sinon, je vais peut-être conclure brièvement en disant, sauf que le relique, en fait, c'est... Ah, le relique du Saint-Suaire. Ah. Ça, c'est un vaste problème, le Saint-Suaire. C'est un vaste problème. Ce qui est intéressant pour lui, pour le Saint-Suaire, c'est qu'il est évident qu'il ne peut pas s'agir d'une image fabriquée de main d'homme. D'accord? Puisque l'image elle-même n'est pas révélée de manière immédiate. Donc ça, c'est le premier point intéressant. Deuxième point intéressant du Saint-Suaire, c'est que il est vénéré comme Saint-Suaire. Mais alors, à partir de là, c'est là où les problèmes commencent. Premier problème. Quels vêtements, quels linges ont été utilisés pour le Christ à sa passion? Parce qu'aujourd'hui, vous avez le Saint-Suaire à Turin, la Sainte Tunique à Argenteuil et un linge dans le Latium à Valopello. Quelqu'un qui est un peu compétent en la matière dit qu'il est tout à fait possible d'arriver à articuler trois linges. Vous voyez, le problème, c'est que, je vous dirais la même chose que pour les séminaristes, que je leur dis toujours aux séminaristes, quand vous posez une question, il faut savoir sur quel point je me situe. Alors, mon problème, déjà là, c'est que j'ignore la quantité de linge utilisée au moment de la passion. Donc, ça, c'est déjà un problème d'ignorance. Deuxième problème d'ignorance, c'est la fiabilité de la transmission. Alors, ce qui est sûr, c'est que il y a un linge précieux qu'on arrive à suivre. On le suit. Alors, le début du chaînon est très manquant. Et ceci dit, il ne faut jamais oublier que la guerre juive met quand même un gros bazar à Jérusalem. Admettons que les premiers chrétiens aient récupéré un linge précieux. Au moment de la guerre juive, de toute façon, il fuit vers le nord. De fait, c'est possible. Que du coup, ça se récupère, ça se finisse par se retrouver, parce que ça, on a le témoignage de quelque chose qui arrive à Édesse, donc en Turquie actuelle, au bord de la mer Noire, d'un linge très précieux qu'on dit être une image du Christ. Bon, ça ressemble au Saint-Suaire. C'est pas impossible. Ce linge-là, on arrive à le suivre jusqu'à Constantinople, c'est-à-dire lorsque les Perses, puis les musulmans, envahissent la Turquie, pour sauver ce linge, on le déménage en Turquie, on le déménage à Constantinople, considéré comme imprenable. Là, on a une. Donc, vous voyez, premier maillon faible, c'est le passage de Jérusalem à Édesse. Ensuite, la continuité est à peu près assurée. Deuxième maillon faible, après Constantinople. Parce que le problème, c'est que la prise de Constantinople par les croisés en 1204 est un truc épouvantable. Et qui dit truc épouvantable dit la porte ouverte à tous les racontars. Je vous donne un exemple pour faire comprendre. Lorsque les Russes envahissent l'Allemagne, en 1945, au printemps 1945, ça a été un bazar épouvantable. Je crois que je vous ai déjà parlé de ça, mais c'est pas grave. Mais c'est parce que pour moi, ça aide à réfléchir. Les Allemands savaient bien que les Russes allaient les envahir. Donc, ils avaient protégé tout, caché tous leurs joyaux précieux dans des endroits, dans des cachettes considérées comme introuvables. Premier problème, la boucherie était telle que les gens qui savaient où étaient cachés sont morts. Donc, on a perdu la cachette. Deuxième problème, les Russes sont malins et ont fouillé. Et c'est comme ça que je prends quand même que, de manière extraordinaire, alors c'est pas tout à fait en Allemagne puisque c'est en Prusse, on a perdu un trésor absolument magnifique qui était à Königsberg, l'actuel Wannsee. On l'a perdu. Et personne ne sait où il est aujourd'hui. Peut-être qu'il y a dans une chaumière de Sibéi, quelqu'un qui a ce trésor et qui se garde bien de le dire. Plus probablement, d'ailleurs, ça a été fondu et parti. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, le sac de Constantinople, c'est pareil en 1204. Ça veut dire que tout ce qu'on a finit par être dispersé, peut-être brûlé, etc. Toujours est-il qu'il y a un chevalier qui vit à Chambéry, qui au 15e siècle dit « Ouh, moi j'ai une relique qui est un linge qui appartient au Christ » que j'ai ramené de Constantinople. Donc, deuxième maillon faible de Constantinople à Chambéry. De fait, il a un de ses ancêtres qui est allé à Constantinople. Voyez, donc ça, c'est le deuxième problème. Alors, une fois qu'on a dit ça, à Chambéry, qu'est-ce qui se passe? On l'expose, l'église brûle. On le déménage, parce que Chambéry et Turin, c'est le même royaume. C'est le royaume des Lombards. Et on le déménage à Turin. De l'autre, du bon côté ou du mauvais côté des Alpes, ça, ça dépend comment vous raisonnez. Et il est alors exposé à Turin. Au XXe siècle, on se prend de passion pour cet objet. C'est assez étonnant, cette affaire, parce qu'on a l'impression qu'on va enfin mettre la main sur la réalité de la passion du Christ. Peut-être aussi en raison de cette image qui se révèle sous certaines conditions et qu'on ne comprend pas exactement. Bon. Du coup, on décide de faire des analyses scientifiques. Tous les experts actuels s'accordent pour dire que ces analyses scientifiques sont ni faites ni à faire. Parce que lorsque les scientifiques des années 1980 ont prélevé un petit morceau du linge pour faire la datation au carbone 14, ils ont pris un morceau de linge du 15e siècle. Donc, il n'est pas très étonnant qu'ils aient daté du 15e siècle. Pourquoi je dis du linge du 15e siècle? Parce que lorsque le Saint-Suaire avait commencé à brûler, qu'est-ce qu'on a fait au 15e siècle? On a commencé à le restaurer. On n'a pas gardé intact, c'est-à-dire qu'on a reconstitué une partie du tissu. Et puis, de toute façon, si un tissu est passé par le feu au 15e siècle, les températures sont telles qu'elles vont perturber la datation au carbone 14. Donc, de toute façon, la datation ne prouve rien. C'est là la difficulté, en fait. C'est qu'on prend des arguments qui ne prouvent pas grand-chose. Alors, après, on s'est mis à faire des études spécialistes de savoir quel genre, quel est le matériau de mon tissu. De fait, ça nous met au Proche-Orient. On s'est mis à étudier les pollens trouvés dans les tissus. Alors, il faut vraiment être spécialiste de ces trucs-là. De fait, on trouve des plantes qui sont plutôt en Syrie. Donc aujourd'hui, il est à peu près certain que le tissu a été fabriqué en Syrie au 1er siècle. Donc ça vous donne un argument pas trop mauvais pour un Saint-Suaire. Je veux dire, c'est plus satisfaisant que si c'était un tissu fabriqué au 15e siècle de toute pièce. Est-ce que c'est la relique du linge tenu par le Christ? Peut-être. Mais vous comprenez que moi, je ne peux pas raisonner autrement qu'en termes de probabilité. Moi, je réponds, c'est pas impossible. Alors que la bande de lait du Christ à Saint-Médard de Soissons, je vous dis, c'est impossible. Oui, c'est quand même un jugement un peu différent. Quand je vous dis c'est pas impossible, mais ce c'est pas impossible, si je compare par exemple, je sais pas, une relique de Saint Jean-François Régis à la Louvet, là c'est quand même certain. Ou une relique du Saint Curé d'Ars, on est quand même dans l'ordre du certain. Du coup, pour Saint-Suaire, on est dans l'ordre du probable, c'est pas impossible. Mais en fait, vous savez, c'est peut-être par là que je terminerai parce que là l'heure tourne. Pour moi, c'est pas un problème en fait. Parce qu'on ne met pas la main sur les choses spirituelles. Il y a un moment où, dans la connaissance humaine, on est obligé de faire confiance. Et c'est vrai également en mathématiques. Moi, j'ai une fascination pour les mathématiques, pourtant. Parce que c'est l'art du raisonnement. Et n'empêche, si vous n'avez pas des prémices, vous ne pouvez pas raisonner. Donc, les mathématiques, c'est l'art du raisonnement en faisant confiance aux prémices. Eh bien, l'histoire, c'est l'art du raisonnement en faisant confiance à ce qu'on nous raconte. Mais tout en n'étant pas crédule. Enfin, c'est là où c'est difficile, parce que je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut avaler tout ce qu'on nous raconte. Ça veut dire que peut-être que si je vais à Turin pour vénérer le Saint-Suaire, j'y vais avec prudence. N'oublions pas que je peux aussi mettre mes pieds dans la foule de ceux qui m'ont précédé, et qui en sont revenus transformés. Mais bon, ça, c'est une position que moi, j'ai un peu de mal à tenir à titre personnel. Mais je comprends qu'on puisse la tenir. Mais on ne mettra pas la main. Et on ne pourra pas. Parce que dans l'histoire, on ne peut jamais mettre la main, en fait. Or, les reliques, c'est un sujet d'histoire. Ce n'est pas très grave, parce que ça nous oblige à exercer notre jugement spirituel sur la réalité. C'est ce que j'ai essayé de faire ce soir, c'est ce que j'ai essayé de faire les autres jours. Disant, si j'arrive à rendre compte théologiquement et spirituellement de mes pratiques, c'est pas trop mauvais. Après, ça appartient à Dieu. Bon, mais sur ce, Je vous remercie. Bon, j'espère un jour pouvoir vous rencontrer en vrai, en fait, parce que les petites vignettes, c'est bien. Enfin, là, moi, je suis quelqu'un d'un peu incarné, en fait. Donc, voilà. Du coup, à bientôt à chacun et bonne soirée. Et à bientôt.
Merci beaucoup.
Merci. À bientôt. Merci beaucoup.
À bientôt.
Merci, au revoir.
Un grand merci. Bonne soirée.
Bonne soirée. Bonne soirée.